Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Vous le savez, comme chaque année, on se demande Call of Duty, Battlefield, lequel des deux est le meilleur FPS de la fin d'année? Et si cette année c'était Titanfall 2? Avec moi aujourd'hui pour discuter du FPS de la fin d'année, savoir lequel mérite d'aller sous votre sapin de Noël, eh bien il y a Tizo. Salut Tizo.
Salut à vous, salut Gameblog.
Salut, ça va.
Salut Léo.
Salut Carole.
Salut, ça va.
Et salut Camille.
Salut.
Alors tous, vous avez à peu près joué à chacun des trois jeux que je viens de citer. Nous allons en parler dans quelques instants. Évidemment, on va faire une présentation générale de chacun de ces jeux qui sont tous des suites. Hein. C'est encore une fois Battlefield 1, bah, c'est après Battlefield 4. Call of Duty Infinite Warfare, c'est après Call of Duty Black Ops 3. Ah, c'était pas Armored Warfare. Non, c'était il y a deux ans ça. Alors là, vous voyez, je m'embrouille tout le temps. Advance Warfare, c'est il y a deux ans avec Kevin Spacey. Bon, voilà. Bref, j'arrête pas de m'embrouiller avec ça.
Bon, c'est et plus puis, simple, c'est Titanfall, il n'y en a que deux.
Voilà, Titanfall, au moins, il n'y en a eu qu'un. Et comme ça, c'est réglé. Avant de faire cette présentation générale, évidemment, on va passer au win et au fail. Et comme je vais pas être le mec qui va parler le plus pendant le podcast, forcément, c'est pas trop ma spécialité, eh bien, je vais m'en occuper. Voilà, il n'y aura pas de Julo ou de Romain pour me faire le win et le fail. Donc, le win de
le
cette
win.
Semaine, eh bien.
On n'a pas nos petites.
Oui, il n'y a pas de
oui,
petits
alors
sons,
attendez.
Bah
non, il y a eu un problème avec les petits sons. Alors, attends,
voilà.
C'est ça là. Voilà, voilà le win. Alors,
oui,
voilà qu'on est réduit, on n'a plus beaucoup de moyens.
Non,
il n'y a plus trop de budget. Alors. Le win de cette semaine, et c'était impossible de passer à côté, c'est Carole.
C'était moi le...
Ouais, c'est toi le win. De... Non,
le
mais
win
Carole,
ou le fail.
Rappelle-toi, dans les années 80 et 90,
oui.
Je suis sûr que tu te retrouvais devant la 5 et tu regardais les films de Bud Spencer et Terence Hill.
Absolument.
C'est vrai ?
C'est vrai.
Tu les connais tous par cœur ?
Non.
Non, bon, bref, c'est pas le problème. Toujours est-il qu'il y a quelques jours...
Regardais.
Un studio italien qui avait fait une démo l'année dernière pendant une jam où ils présentaient un beat'em all, avec Bud Spencer et Terence Hill, et bien ils ont eu un accord en début d'année 2016 pour faire un jeu officiel avec ces deux acteurs qu'on a pu voir dans des tas de films tous plus cons les uns que les autres, où ils se mettent des baffes à plus savoir qu'en foutre. Et ben voilà, il va arriver, le jeu est prévu.
On en parlait il y a quelques jours d'ailleurs.
Exactement, ça s'appelle Slap and Beans. Et le but, donc, ce sera de diriger Bud Spencer et Terence Hill dans leurs différents films, dont Trinita, évidemment, et j'en passe. Et ils auront chacun des petites particularités.
Mon nom et personne et compagnie.
Exactement, voilà.
Tous ces films.
Mais Mon nom et personne, c'est pas avec les deux, hein,
ouais,
c'est juste avec Terence Hill et Henry Fonda.
Voilà.
Et donc. Voilà, on va se retrouver avec ça. C'est sur Kickstarter en ce moment. Il faut 130 000 euros pour que le projet aboutisse, qui devrait paraître aux alentours de décembre 2017 déjà sur PC. Et peut-être sur PS4 et Xbox One, si ça se passe bien. Non, mais regardez les images si vous êtes premium. Ça fait super envie. On va retrouver vraiment l'esprit des films qui ont réuni les deux acteurs italiens ensemble. Hein. Et enfin, en ce qui me concerne, vu le temps que j'ai passé à regarder leurs films et à les re-regarder et à revoir les bonnes claques de Ben Spencer qui faisait décoller les mecs ou son gros coup de poing massue là, sur la tête des gars, enfin voilà, ça fait super envie. Et on est plus d'un à la rédac. Et d'ailleurs, vous aussi, hein, dans la communauté Gameblog, vous êtes quelques-uns à vous être manifestés. N'hésitez pas à aller donner des sous. Moi, en tout cas, j'ai balancé. Hein. Alors, franchement,
oui, bah ça, on sait. Toi,
je suis arrivé,
plaît,
Mikasa et Tsukasa.
Tu
tiens, j'aboule la thune, merci. Hop. Donc, le maximum pour ce projet. Et le fail de la semaine. Alors, attends,
alors
c'est le bouton.
Pas,
attends,
voilà,
là.
C'est ça.
Voilà, c'est.
Voilà, Batsu, Batsu.
Le fail de la semaine, ça concerne Mafia 3. Alors, c'est pas le jeu hein, en lui-même. Je vous rappelle, on lui a mis un 5 sur 10 que j'estime personnellement mérité.
C'est pas le jeu, on lui a mis 0, mais c'est pas le jeu.
Non, non, bah, c'est un jeu moyen. Voilà, c'est un jeu moyen qui est une super
5.
Histoire, qui a des super persos.
Je l'ai pas encore
une
fait.
Super ambiance, mais qui est pas bon. Et donc,
tu m'as quand même pas enlevé l'envie d'y jouer. Hein.
C'est vrai.
Il faut que je m'y mette. J'ai pas eu le temps.
C'est pas mon but. Hein. Mon but, c'est pas de donner ou
ouais.
Machin. C'est juste
mais
de
oui,
dire
mais
ce qui
bon,
va pas.
J'aurais pu me dire, bon, ça vaut pas le coup, mais j'ai quand même envie de mettre les mains dessus.
Toujours est-il que dans le dernier rapport financier de Take-Two Interactive, qui est la maison mère de Rockstar et de 2K Games, on a pu apprendre que Mafia 3 avait réalisé un véritable carton à son lancement avec 4,5 millions d'exemplaires distribués la première semaine. C'est quand même un score très honorable. Mais après ce rapport financier, Strauss Zelnick, qui est le PDG de Take-Two, s'est quand même fendu d'une petite saillie un petit peu acerbe vis-à-vis de la presse, qualifiant d'anomalie les systèmes de notation actuels parce que il pense que les notes de Mafia 3 qu'il a pu voir un peu partout sont pas à la hauteur,
sont pas justifiées.
Et donc, voilà, pour lui c'est pas justifié, rajoutant d'ailleurs au passage que pour lui on va dire les testeurs les plus importants sont ceux qui ont mis les meilleures notes.
Évidemment.
Donc il y a pas de problème et en plus le jeu se vend bien.
C'est totalement faux de base en plus.
Voilà, si on va voir un petit peu sur les sites les plus importants du monde hein, c'est pas exactement ça, c'est pas la foire à la bonne note non plus. Hein, c'est moyen. La plupart des gens lui ont mis une note moyenne en
forcément il a pas apprécié,
en soulignant les bons côtés du jeu comme j'ai pu le faire dans le test, mais aussi en montrant que non, le jeu est pas fini.
T'as fait ton boulot,
ultra répétitif. Autant répétitif que Assassin's Creed 1, donc imaginez un petit peu le niveau de répétitivité
de redondance
et à quel point c'est assommant. Bref, voilà, Strauss Zelnick qui s'est permis ça. Pourquoi pas. On verra si ça marche pour les prochains jeux qui vont lancer du côté de chez 2K Games, en tout cas, parce que avec ce genre de jeu qui aussi n'a pas forcément plu du côté des joueurs, hein, si on regarde les joueurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Metacritic, sur Steam, les retours sont pas forcément géniaux non plus. Peut-être que ça va faire craindre aux joueurs que les prochains jeux de 2K Games qui en mettent plein les yeux au début, ils vont se dire je vais arrêter de précommander,
hein.
Quoi. Donc voilà.
Heureusement, il y a Civ 6 pour sauver tout ça.
Voilà, heureusement, il y a Civilization 6, absolument. C'est exact. Et puis il y a Bioshock The Collection aussi, hein, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui a bien marché aussi. Voilà, c'était pour le win et le fail.
Il y a trop de jeux.
Oui, il y en a beaucoup trop en ce moment, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va parler des 3 FPS de cette fin d'année dès maintenant. On va faire une présentation générale d'abord avant de passer à une comparaison pour finalement à la fin, hein. Chacun, je vais vous demander, c'est quoi le FPS de cette fin d'année ? Et vous aurez intérêt à me répondre, les yeux dans les yeux, n'est-ce pas, Carole ?
Oui.
Bon, le plus franchement possible. Librique.
J'ai peur de cette question.
N'est-ce pas, Carole ? Oui, non, mais
bon,
je suis
bien.
Honnête.
On va commencer avec Battlefield 1, qui est sorti le 21 octobre. On va commencer dans l'ordre chronologique, en fait, hein, qui est sorti le 21 octobre dernier sur PS4, Xbox One et PC. Battlefield 1, Camille, c'est toi qui avais effectué le test.
Exactement.
Qui l'a beaucoup aimé.
8 sur 10
et indispensable. Et indispensable, sorti donc, je disais, sur PS4, Xbox One et PC. Et donc,
malgré les quelques déboires qu'il y a autour, mais je reviendrai dessus.
On en parlera.
Parlons
juste.
On parle pas des choses qui fâchent, Camille.
On peut parler des choses qui fâchent. Donc Battlefield 1, qu'est-ce qu'il a de plus que, par exemple, Battlefield 4, l'épisode qui est sorti juste avant, il y a 2 ans maintenant.
Ouais, alors bon, on va revenir un peu là-dessus. Alors Battlefield 1, oui, 21 octobre, comme l'a précisé Plumeau. Donc l'endroit où déjà c'est pas logique, ça s'appelle Battlefield 1, ça fait suite à Battlefield 4. Alors pourquoi ? Parce que de base, DICE, donc le studio de développement qui s'occupe de la série depuis fort longtemps, a précisé qu'il voulait faire un bond en arrière, fait parler de les genèses finalement de la série. Et donc quoi de mieux pour faire ceci que de parler de la Première Guerre mondiale, qui est finalement la première grande guerre moderne de notre histoire.
La grande guerre, comme tu dis, la der des der, la guerre qui aurait dû mettre fin à toutes les guerres,
et que ça n'a jamais été le cas, mais bon, voilà. Donc déjà, en soi, avoir fait le choix de la Première Guerre mondiale, c'était quelque chose d'assez osé, hein, on va le dire, parce que déjà, dès son annonce, hein, c'était quelques mois avant sa sortie, les premiers teasers, on savait pas trop à quoi s'attendre. Alors au début, il y avait des rumeurs comme quoi ça serait un jeu un peu post-apocalyptique, ce qui n'était pas du tout le cas en fait, puisqu'en fait les gens n'y croyaient pas, un jeu sur la Première Guerre mondiale, ce n'était pas vendeur.
Elle a été tellement ignorée.
C'est ça, c'est une guerre qui a tellement été ignorée.
Alors,
ça parlait d'Uchronie aussi, parce que
voilà,
y a des gens qui voyaient les Zeppelins qui disaient mais non, ça va être un truc futuriste mais mélangé avec machin, des aliens au milieu de... Bon, bref, on pouvait imaginer un peu tout.
C'est ça.
Des aliens en pleine guerre mondiale.
C'est pas du tout une Uchronie, c'est vraiment un jeu qui s'ancre dans la Première Guerre mondiale. Alors comme disait Carole, c'est une période de l'histoire qui est finalement très peu traitée dans le jeu vidéo. Les rares qui l'ont fait, donc on peut citer Soldat Inconnu, mais du coup ça n'a strictement rien à voir avec un FPS.
Très bon jeu Soldat Inconnu.
Voilà, exactement.
The Darkness qui avait un petit passage dans la Première Guerre mondiale, mais c'était très léger, hein. Mais c'est vrai qu'après les jeux spécifiques sont plus des RTS ou
surtout les FPS, parce que en fait le problème du FPS, les gens avaient peur, c'est que tout soit plus lent, et du coup on perde un peu le côté fun de la série Battlefield, qui était vraiment axé sur le moderne, parce que malgré le premier épisode qui était donc Battlefield 1942 sur la Seconde Guerre mondiale, il y avait quand même une certaine rapidité de mouvement, une certaine rapidité d'action, et ça, beaucoup de joueurs fans de la saga avaient un peu peur de ça. Finalement, c'est pas du tout le cas, parce qu'ils ont réussi en fait à ils ont un peu truqué l'histoire, on va le dire aussi, pour réussir à rendre la Première Guerre mondiale potable aux yeux on va dire, du jeune public. Parce que c'est avant tout le jeune public qu'il fallait finalement convaincre.
Bien sûr.
Il faut lui dire, regardez, allez faire du frag en Première Guerre mondiale, c'est fun, quoi.
Alors, non, déjà... mais c'est ça, quoi. Regardez, c'est attrayant.
Mais c'est ça. Alors déjà le côté tranché, alors il faut savoir que la Première Guerre mondiale, la première partie, c'est une guerre de mouvement, ensuite c'est devenu une guerre de position. Mm-hmm. Et traiter donc de la Première Guerre mondiale, pardonnez-moi, avec la guerre des tranchées, c'est très difficile dans un FPS. Et donc, du coup, ils ont réussi à garder l'aspect tranché uniquement pour certaines maps. Et en plus, ce sont des tranchées ouvertes. Il ne faut pas s'attendre, évidemment, à faire des grandes offensives héroïques. C'est pas du tout le cas. Ça va être très ouvert. On va sortir de sa tranchée finalement tout le temps. Mm-hmm. C'est vraiment un décor, en fait, plus qu'une mécanique de jeu. D'accord. En fait, il n'y a aucune mécanique de jeu réellement propre à la Première Guerre mondiale, si ce n'est le gaz moutarde, mm-hmm. qui est du coup la grosse apparition de ce Battlefield. Parce qu'avant, on n'avait que des grenades incendiaires. On avait les grenades... classique finalement, les grenades fumigènes, et là la grenade gaz moutarde, ça permet d'avoir une petite mécanique de jeu en plus, puisque ça rajoute la possibilité de porter un masque à gaz. Et du coup, c'est vrai que le masque à gaz, c'est bien utile déjà pour se protéger, et en plus ça permet d'obstruer la vue. Mmh. Et du coup, ça permet justement d'avoir de retirer un peu le regard à l'adversaire. Donc, en plus, il a une double utilité, cette grenade, c'est qu'en plus elle peut servir de fumigène, parce que ça permet de cacher la vue, on peut se cacher à l'intérieur, et en plus ça permet évidemment de faire des dégâts. Donc c'est plutôt une grosse nouveauté, et c'est un peu finalement la grosse avancée au niveau de la Première Guerre mondiale, avec aussi l'ajout d'un véhicule. Alors, c'est pas vraiment un véhicule, mais c'est le cheval. Mm-hmm. Alors le cheval, qui est une... C'est vrai qu'on n'y croyait pas vraiment quand ils ont dit qu'ils avaient fait mettre un cheval dans Battlefield, c'était assez osé finalement. Et la mécanique marche plutôt bien.
C'est tellement classe.
C'est assez classe.
Parce que ça se passe dans le désert, ça se passe au nord de l'Afrique.
Alors
si
ça,
je ne m'abuse.
De toute façon, donc des charges de cavalerie, on a eu jusqu'à la toute fin de la Première Guerre mondiale, jusqu'à l'apparition des tanks en fait. Mais c'est vrai que le cheval était encore très fortement utilisé pendant cette guerre. C'est d'ailleurs la dernière guerre qui en a utilisé massivement. Donc finalement, c'était pas choquant d'en avoir, mais c'est vrai qu'il fallait bien l'utiliser. Et l'utiliser pendant le désert du Sinaï, donc la fameuse map qui était présente dans la version alpha, enfin bêta, pardonnez-moi.
Dans la bêta, ouais.
Ouais, elle était. Le cheval est très bien utilisé. C'est-à-dire qu'on fait des charges à one shot. Alors ils l'ont nerfé après la bêta, parce que c'est vrai que c'était même trop puissant. Le cheval était un poil trop rapide, un poil trop résistant. Donc ils ont viré un peu la résistance du cheval, et du coup c'est un peu plus réaliste, on va dire.
D'accord.
Sinon, au-delà de ça, voilà, on retrouve des mécaniques de jeu qui sont du coup plus proches de la Seconde Guerre mondiale que de la Première. C'est-à-dire qu'on va avoir des armes qui sont automatiques en grande partie. En fait, finalement, la seule classe qui va utiliser des fusils à verrou, l'arme principale finalement de la Première Guerre, ça va être la classe sniper. Donc, du coup, ce niveau-là, faut pas rechercher de l'historicisme pur, parce que du coup, ce n'est pas le cas. Donc, on va avoir des armes automatiques.
En même temps, c'est pas ce qu'on demande. Hein. Les gens attendent souvent des cours d'histoire dans les jeux vidéo, mais bon,
c'est vrai, mais,
finalement.
On aurait quand même aimé finalement avoir un jeu qui va. J'aurais aimé, pour dire ça vulgairement, j'aurais aimé que Dice porte ses couilles, ils disent ouais, on va mettre
bien, c'est bien.
Quelle vulgarité,
comme ça, voilà.
Ce podcast part en live.
Et que du coup on est l'utilisation du fusil à verrou. En plus, voilà, il y a une certaine inertie dedans, enfin c'est assez en fait, pour utiliser le fusil à verrou, pour en avoir même testé dans notre
Ah, mais regarde pas avec ces yeux là quand tu dis ça, parce que ça me fait flipper.
Pour avoir dans la vraie vie utilisé un fusil à verrou, c'est vrai que c'est une arme qui a énormément de punch dans les bras,
qui a beaucoup de recul,
qui donne beaucoup de recul, qui fait même pratiquement vraiment mal selon les fusils. Mm-hmm. Et du coup il faut vraiment réfléchir avant de tirer, et je trouvais cette mécanique assez sympathique. D'ailleurs, si vous voulez la retrouver, vous avez qu'à jouer à Verdun. C'est un jeu, je vais vous parler d'ailleurs dedans dans la chronique de l'indépendance, j'en profite pour faire ma pub.
Fais ta pub, vas-y, hein. Il faut en parler de Verdun dont tu vas
et
nous causer
bientôt. Verdun, je vais vous en parler longuement. Mm-hmm. Donc voilà, vous n'avez pas, faut pas vous attendre à du réalisme, malheureusement. Moi, je regrette un peu, parce que comme vous le savez, sur Gameblog, moi je suis un gros amateur d'histoire. D'ailleurs, j'en ai profité pour parler un peu d'histoire dans ma lettre ouverte à Battlefield, puisque pour moi la grosse finalement erreur de Battlefield,
on en parlera tout à l'heure, c'est la politique des DLC.
Voilà. C'est pas que du DLC du coup, parce que c'est même dans le jeu de base, c'est même c'est pas le fait que ça soit dans un DLC finalement, c'est le fait que le jeu de base ne l'est même pas présenté en tant qu'acteur.
Ce ne soit même pas évoqué, oui, voilà. Que ce soit juste simplement des,
on va dire, des
figurants.
Il n'y a pas
d'armée
française, non plus. Et c'est vrai que les deux acteurs principaux aux côtés des alliés de la Première Guerre mondiale qui sont absents, ça fait un peu mal au cul, faut le dire. Au-delà de ça, ça reste un très bon jeu multijoueur, et aussi un bon jeu solo, parce qu'il faut le souligner. Alors ils ont retravaillé un peu le système de campagne solo. Maintenant on n'a plus une campagne linéaire qui va suivre un personnage d'un bout à l'autre. On va avoir plusieurs campagnes avec plusieurs personnages. Chaque campagne un personnage en fait. Donc ils appellent ça des war stories. Donc des... Alors c'est... ils n'ont pas traduit ça par histoire de guerre en ouais. français, je ne me rappelle plus. Mais bon, peu importe. On a par exemple la première histoire, on suit Edward qui est un pilote de char d'assaut anglais, pilote britannique donc. On va suivre son histoire du début à la fin. Ça dure une heure et demie par campagne. Donc finalement, évidemment, la campagne le solo dans son ensemble n'est pas très longue. Alors je sais plus ce qu'il en est pour Call of Duty.
On en parlera juste après, parle. T'inquiète pas.
Ouais, j'ai pas le droit. On a vraiment pas le droit de parler.
C'est...
Ah, c'est compartimenté.
C'est segmenté.
Oui, attention. C'est comme ça. C'est très strict.
Mais bon, voilà. C'est vrai que du coup, la campagne solo est quand même vaut quand même son pesant d'or. Elle est finalement sympathique.
Mais l'important c'est le voyage. Enfin, j'ai envie de dire que c'est l'intensité de l'expérience et pas forcément la longueur.
Et puis, en fait, le côté exotique, ils ont voulu grâce à la campagne solo nous montrer un peu le côté mondial de la Première Guerre mondiale.
Puis avoir plusieurs visions, je trouve que c'est intéressant aussi.
On a plusieurs visions. Alors, il manque la vision française, évidemment.
on y revient toujours.
Mais ils nous ont, par exemple, mis donc une femme berbère. Mm-hmm. Je trouvais ça assez sympa, finalement, comme ils l'ont introduit dedans, qui est une seconde du fameux Laurence d'Arabie.
D'accord.
Franchement, j'ai bien aimé ce système. Alors, ça permet d'avoir de l'exotisme dans les paysages, dans le gameplay, parce qu'on va découvrir des ennemis différents, des véhicules différents, etc., etc. Donc, la campagne solo est pour moi plutôt bien réussie, mieux que dans Battlefield 4, qui était finalement bien mise en scène. Comme chaque fois, de toute façon, DICE, ce sont les pros de la mise en scène. Après, pour l'histoire, ça n'a jamais vraiment été les pros. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a pas.
Moi, c'est plutôt au terme de gameplay que j'ai toujours eu des soucis avec eux. Je trouve qu'ils sont forts pour faire des moteurs, et à part Battlefield Bad Company, il y en a aucun dans ceux que j'ai pu essayer. Hein, oui. Attention, que j'ai essayé, j'y ai pas joué pendant des plombes non plus. Il y en a aucun qui m'a vraiment botté, quoi.
Enfin oui, après voilà. c'est vrai que c'est ton avis, mais la saga Battlefield, c'est très reconnu.
C'est vrai que c'est ton avis, mais
c'est que le mien.
Camille, j'adore qu'il essaie de prendre des gants, mais bon, finalement, c'est vrai que c'est ton avis, mais garde-le.
Non mais je suis justement assez d'accord pour le reste des jeux de DICE. Non, moi, je suis un gros amateur de Mirror's. J'ai beaucoup aimé le premier parce que c'était innovateur. Le 2 était un peu moins bien. Mais c'est ce que je disais. C'est le problème, c'est que c'est une très bonne mise en scène, mais du coup, l'histoire, c'est pas non plus hyper passionnant, parce que en fait, ce qu'on a aimé, par exemple, dans cette fameuse campagne, donc avec le pilote de char anglais, c'est que c'est bien foutu. Voilà, ça nous met bien dans l'ambiance de la Première Guerre mondiale. Mais du coup, l'histoire, voilà, ça reste assez basique. Les personnages sont pas forcément approfondis. Enfin, après, c'est pas forcément. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un FPS? Je ne sais pas.
C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que c'est ce que vous attendez, que dans un FPS on vous raconte forcément une histoire qu'on étoffe comme ça, ou est-ce que vous voulez juste flinguer?
C'est clair, il est pas très solo. Par contre, tout dépend pourquoi tu joues à un jeu. Par exemple, je sais que Léo joue énormément à Call of Duty, mais il est très FPS, mais il va surtout jouer au multijoueur. Pour quelqu'un qui n'achète Battlefield ou Call of Duty ou Titanfall que pour le multijoueur, t'en as rien à faire qu'on te raconte une histoire. Moi par exemple, j'adore qu'on me raconte une belle histoire. Moi je fais tous les solos. D'ailleurs, on va parler du solo de Titanfall et de
Call of aussi.
Call of, mais pour moi, c'est important. C'est vraiment important qu'il y ait un scénario bien ficelé, bien raconté, que l'histoire prenne le temps de se poser, qu'il y ait des personnages avec du fond, avec une histoire. Moi, ça compte pour moi. C'est pour ça aussi que c'est pas forcément la durée de vie qui m'intéresse, mais l'intensité, la manière dont on va me raconter les choses. Après, voilà, tout dépend pourquoi tu y joues.
Ouais. Bah du coup, justement, pour rebondir sur ce que dit Carole. L'intensité de la campagne solo de Battlefield 1 est pour le coup très bonne, en tout cas meilleure que les épisodes précédents. En même temps, il n'y en a pas de 100 000, hein, parce que dans la franchise pure saga Battlefield, il n'y a eu que Battlefield 3 et 4 qui ont joui d'une campagne, puisque Bad Company, c'est un peu un spin-off à part, donc on ne va pas en parler.
Mais si, il faut en parler de Bad Company, refasse un Bad Company.
Moi, j'adore Bad Company, hein, je suis le premier à aimer cette saga, mais. D'ailleurs, j'aurais préféré un Bad Company 3 qu'un Battlefield 1.
Je préférerais aussi.
Bon, alors ça, c'est ton avis.
Voilà,
hein,
ça, c'est mon avis.
Un Bad Company 3 avec l'humour du premier et les persos complètement frappés du premier,
non,
ça serait
génial.
Pour vous
dire la vérité, pour moi, le FPS. Battlefield 1 aurait été parfait si finalement ça aurait été traité de la Deuxième Guerre mondiale, parce que tout ce qu'ils ont fait, ça s'accordait très bien. S'ils voulaient des armes automatiques et puis une certaine rapidité de mouvement, ils auraient dû garder la Deuxième Guerre mondiale, c'était parfait.
Peut-être
et
l'année prochaine ou dans 2 ans.
Alors l'année prochaine, on verra.
Ce sera Battlefront l'année prochaine.
Ce sera Battlefront d'ailleurs, Battlefront 2. Ouais. Ah. Enfin voilà, donc Battlefield 1 reste un très bon FPS malgré ses quelques déboires.
Et qu'est-ce que c'est beau.
Ah, c'est vrai que c'est beau. Mais est-ce qu'on va en parler un peu plus tard?
On va en parler, on fera un petit comparo entre les trois, on va parler de ces choses-là.
On ne parle pas les segmentations.
Excusez-moi, je suis mariée. C'est un peu comme les primaires, tu vois, c'est un peu.
C'est ça, 5 minutes, monsieur Juppé, pas plus.
Pourquoi monsieur Juppé?
Je sais pas, tu peux penser à Alain Juppé, je sais pas pourquoi.
Je sais pas comment le prendre, mais qu'à ça tienne.
Bien, 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 moi j'aime beaucoup monsieur Juppé.
Moi j'aime bien aussi.
C'est le meilleur d'entre nous. On va passer au deuxième FPS de fin d'année qui est sorti le 28 octobre, qui s'est un peu intercalé entre les deux gros. Hein.
Les deux gros.
Au sens propre et au sens figuré.
Ouais,
pour le
et du coup, on se demande si au niveau marketing, au niveau stratégie, c'est
il
bien.
Il est mal tombé.
Parce que ça va peut-être lui faire du mal au niveau des ventes. On verra bien. Après, la fin d'année n'est pas encore.
En tout cas, il a été bien reçu.
Arrivé.
Par la presse.
Par la presse. Maintenant, faudra voir au niveau des ventes.
C'est... Plus, les deux sont sous la patte d'IA, donc finalement, c'est leur problème. Ils ont...
Ah bah là, c'est une autre histoire. Bon, bref, après
c'est
peut-être.
Notre débat.
Peut-être, hein, on ne sait jamais que Titanfall 2 s'en sortira et que du coup.
Oui, parce qu'on parle de Titanfall 2. Hein, c'est ouais. Pas, voilà, c'est...
Oui, j'ai essayé de le placer depuis tout à l'heure.
Ouais,
mais...
j'essaie, je parle trop. C'est compliqué.
J'y arrivais pas trop. Titanfall 2, donc toi, c'est. Bah c'est toi Carole qui l'a testé, mais oui.
C'est moi,
mais
absolument.
Et toi tu l'as bien aimé aussi, tu l'as mis un beau 8 sur 10.
Je l'ai adoré et d'ailleurs j'ai même hésité à lui mettre 9.
Oh là là.
Voilà, je te le dis tout de suite, je préfère que les choses soient claires.
Faut pas que ça sorte hein, ça, heureusement que tu me le dis qu'à moi parce que imagine ça s'ébruitait.
Exactement, si les gameblogueurs étaient au courant, qu'est-ce que ça donnerait. J'ai hésité à mettre un 9 parce que pour moi très clairement c'est l'outsider qui revient et qui défonce tout le monde.
On rappelle quand même que Respawn c'est les anciens d'Infinity Ward, donc c'est
Vincent. On sent la patte et on sent la nervosité, l'énergie.
Il y a Vince Zampella et
alors les noms là,
bon,
je
bref,
me souviens
voilà.
Jamais des noms, mais en tout cas
les fondateurs sont les anciens
d'Infinity
Ward.
On sent bien la patte de Call of entre guillemets. Il y a ce petit côté là très nerveux, encore plus nerveux que Call of Duty et Titanfall. Déjà le premier épisode était bien bien énergique, là on gagne encore en nervosité et puis on a une campagne solo, ça on l'attendait vraiment avec impatience.
Il était temps,
il était temps parce que sur le premier épisode clairement c'est ce qui manquait parce qu'on te met des titans, on voit la relation avec les soldats etc. T'as des mécas dans tous les sens et pas de campagne solo. On trouvait ça vraiment dommage. En tout cas, me concernant, j'étais vraiment déçue. Et puis le multi, tu tournais très vite en rond. Il n'y avait pas beaucoup de modes de jeu. T'as joué toi au premier, Léo ?
Très brièvement, mais j'ai eu beaucoup d'échos de mes camarades.
Bah, de toute façon,
ils me disaient que le jeu était juste incomplet. En fait, il n'y avait pas beaucoup de maps, pas beaucoup d'armes. Peu de modes de jeu, donc enfin là je parle du multijoueur.
Tout à fait.
Voilà, vraiment,
bah, de toute façon, il n'y avait pas de solo.
En plus, il n'y avait pas de solo. Donc
pour le coup, il y avait que ça et tu tournais
coup,
très vite en rond.
Voilà, on faisait très. On se lassait très rapidement en fait.
C'est ça.
Ça devenait répétitif.
Et du coup, moi je me suis vraiment mis dans le premier épisode et j'ai très vite j'ai lâché parce que bah, je m'ennuyais.
Ouais.
Donc j'attendais vraiment ce deuxième épisode avec impatience et là, le mode solo, incroyable. Incroyable. Donc je ne sais pas si vous êtes allé lire mon test sur Gameblog, en tout cas il est disponible.
Vous allez le faire, hein.
Vous allez le faire tout de suite. Vraiment un mode solo avec un scénario très bien ficelé, très bien mené, avec une relation entre le mecha, donc puisqu'on va diriger un titan.
Oui, parce que comme dans le premier épisode, en fait, on a des pilotes.
Et
qui
des
peuvent
titans, voilà.
Se retrouver avec des titans, rentrer dedans, en profiter pour dézinguer à tous les côtés. Mais ça, ce qui n'empêche pas que les pilotes, de manière générale, peuvent se balader très très rapidement. Ils ont
c'est
un grappin,
ça,
si je ne m'abuse.
Alors il y a un grappin, et puis tu peux courir sur les murs,
voilà.
Tu fais des doubles sauts, bien sûr, des dashs. Enfin, ça ressemble énormément au gameplay à la Call of Duty. Hein. Ça, il n'y a pas de secret, mais c'est très dynamique. Mais tu as ce côté nerveux quand tu incarnes un titan, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus costaud.
C'est plus la même chose.
On va dire, les sensations ne sont pas les mêmes. Du coup, ça donne une diversité, une variété dans le gameplay qui est vraiment intéressante. Et puis il y a cette relation, moi, c'est ce que je disais il y a quelques instants.
On t'insiste beaucoup sur cette relation. Qu'est-ce qui se passe entre les deux là dans le solo? Parce
que
là, il y a quelque chose de bizarre.
Ils sont ensemble. Non. Mais très clairement, c'est ce que je disais il y a quelques minutes concernant Battlefield. Moi, j'ai envie qu'on me raconte de belles histoires. J'ai envie de m'attacher aux personnages. Pour moi, un mode solo, c'est ça. C'est aussi vivre une histoire, côtoyer des personnages, s'y attacher.
De manière générale, on est d'accord, un mode solo, c'est censé être un tutoriel classe pour te dire pour jouer au jeu c'est comme ça et puis ensuite tu vois un petit peu
plus. Pour moi ça va au-delà d'un tuto très clairement. On vit vraiment une très belle histoire, il y a une durée de vie qui est honorable puisque moi je l'ai terminé environ 7h 7h30.
Le commun des mortels le finira en 21h à peu près, j'imagine.
Exactement, parce que moi je suis un génie. Et t'as vraiment une relation entre le pilote, on sent clairement que Respawn a voulu jouer sur cette relation entre le pilote et le titan, un titan qui est très humain.
Ils ont des intelligences artificielles, les titans?
Ah bah oui,
mais je savais pas ça.
Et très humain, très humain. D'accord. Et si tu veux, il va y avoir cette relation avec le pilote Jack Cooper, qui va s'étoffer au fur et à mesure de l'aventure. À des moments où Jack, le pilote, donc, va dans des endroits où le Titan ne peut pas aller, hein, où tu te retrouves à pied, bah là, le Titan peut te donner des indications sur la mission en cours. Donc, il va y avoir des dialogues bourrés d'humour. Et forcément, tu vas t'y attacher à BT, puisque c'est le nom du Titan. Tu vas t'y attacher et cette relation, tu vas te sentir investi, tu vas te sentir concerné. Donc, ce sera plus uniquement entre le pilote et le Titan. Toi, le joueur, tu vas vraiment être immergé dans l'histoire. Moi, en tout cas, j'ai vraiment été touchée. Je me suis sentie concernée. L'histoire est vraiment classe. Tu vas donc devoir combattre plusieurs Titans. Donc, tu as plusieurs ennemis, hein, chacun a un Titan. Ces Titans, tu vas ramasser leur équipement à chaque fois que tu vas en détruire un. Donc, il y en a 7. Vous me corrigerez si je me trompe. Et ces 7 Titans, bien sûr, vont proposer des armes et un arsenal différent. Et ça, vraiment, encore une fois, ça va donner de la diversité au gameplay. On va également avoir de très très bonnes idées. Par exemple, dans un chapitre, j'en parlais dans mon test, on va devoir jouer avec le temps. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très très classe, tout comme dans Call of Duty, Titanfall également, dans le premier, tu peux courir sur les murs. Bon, ben là, tu vas arriver dans un chapitre où tu vas trouver un élément, je ne spoil pas, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore joué, qui va te permettre de switcher entre les époques. Et il y a un passage où tu dois courir sur les murs, mais sur les murs du présent et ceux du passé. Donc, tu dois switcher en plein saut, en plein wall run, pour pas tomber, en fait, pour arriver à aller d'un mur à l'autre selon les époques. Enfin, j'ai trouvé ça hyper intelligent, hyper bien fichu. Ça t'oblige vraiment à calculer ton coup. Et puis, pas que les wall run, hein, tu vas devoir, par exemple, switcher pour passer.
Faire des glissades.
Pour passer dans des endroits où tu peux pas aller dans le présent, mais dans le passé, c'est possible. Donc, tu vas devoir changer d'époque en pleine glissade. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, de bonnes idées, et puis une vraie tension, un vrai dynamisme. Ça s'arrête pas, ça explose dans tous les sens. Pff, vraiment, c'est intelligent, c'est beau, vraiment, c'est très beau. Alors attention, hein, c'est pas la claque graphique, c'est très clairement le même moteur.
Oui, c'est la patte artistique, comme
exactement.
Dans le premier.
Mais voilà, c'est exactement le même, graphiquement parlant. Mais il y a vraiment de beaux effets, de lumière, c'est joli. T'es sur une planète très exotique, très verdoyante, ça fait beaucoup penser à...
Avatar.
Très clairement,
je suis dans ta tête, hein, t'inquiète pas.
T'es dans ma tête, voilà, tu sais, ou alors peut-être que tu as lu mon test, mais t'es vraiment dans c'est un mélange entre Avatar et Jurassic Park. Enfin, t'es dans le monde perdu, t'as des espèces de dinosaures qui t'attaquent.
Mais c'est comme dans le premier, c'est juste du décor et tu peux pas y toucher. C'est dans le premier, je me rappelle de map où t'avais effectivement des grosses bestioles qui passaient en fond, mais jamais tu pouvais.
Ah non, non, là, là, je te parle pas de Diplodocus et autres tyrannosaures. Non, là, t'as juste des espèces de bestioles préhistoriques qui t'attaquent.
Ah, donc il y a interaction avec d'autres choses que des humains et des robots. Donc.
Exactement. D'accord. Voilà, t'as des titans, t'as des humains, t'as des espèces d'humanoïdes, de drones, etc. Et t'as également des genres de petits dinosaures. Enfin, c'est pas les principaux ennemis, je te le cache pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un vrai rythme, il y a un bel univers. L'histoire, elle est vraiment intéressante. Et
ça se joue bien.
Et ça se joue bien. C'est nerveux, c'est dynamique. Pareil pour le multi. Vraiment, j'ai apprécié. Déjà, on a un mode... Enfin, on a plus de modes. Hein, ça a été extrêmement densifié. On a des nouveaux modes. On a un mode qui s'appelle Coliseum, qui est assez intéressant, où tu vas te retrouver dans un mode 1 versus 1, en fait. Tu vas te retrouver sur une zone, une sorte de plateforme dans les airs, où tu vas, voilà, devoir shooter le premier sur une manche, sur trois manches. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, tu tournes très vite en rond parce que ça va extrêmement vite, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un petit mode sympa. On a toujours les pilotes versus pilotes, pour ceux qui n'aiment pas les titans. On a toujours Last Titan Standing. Ça aussi, Léo, toi, tu avais pu jouer, t'as testé, toi, hein, le multi de Titanfall 2.
Oui, j'ai testé la bêta. Et récemment, j'ai eu l'occasion de faire un petit événement assez court sur le jeu complet, quoi. Et oui, j'y ai joué, et c'est vrai que j'ai pas eu la chance, comme toi, de tester la campagne. Mais déjà, le multijoueur, je l'ai trouvé quand même assez bien fichu. Et les maps aussi. Les maps,
autant en horizontalité qu'en verticalité.
Voilà, les maps, je trouve que voilà, le design est vachement immersif. On se sent tout de suite... voilà,
dans le game, quoi.
Dans l'action. Et je trouve que le multi, ils ont fait des
efforts. Ils ont fait quelque chose de bien. Ouais. Puis effectivement, il y a ce grappin qui te permet de t'agripper, par exemple, au titan pour pouvoir monter dessus. Tu peux leur
retirer des batteries.
Exactement. Ou filer des recharges de batteries à tes titans alliés.
Oui, parce que c'est plus comme dans le premier. C'est pas tu retires la batterie, ça explose du premier coup. Là, c'est juste affaibli.
Voilà, il est juste affaibli. Donc là, tu peux également recharger tes titans alliés. Donc il y a plein de bonnes idées. Moi, j'avais pris l'habitude de monter sur les titans des copains pour pouvoir un petit peu juger de la situation, prendre de la hauteur. Donc ça, c'est intéressant. Et puis toujours en termes de multi, on a ce nouveau mode Bounty Hunter ou Bounty Hunt. Je crois que c'est Bounty Hunter.
Bon, je sors de prime, quoi.
Ouais, exactement. Mais alors, c'est le mode à la mode. Mm. On peut dire ça parce qu'on le retrouve un peu partout. Mais très intéressant, où tu vas devoir en fait tuer un maximum d'ennemis pour récolter de l'argent en fait et le ramener dans des banques, des sortes de mini banques en fait, hein, qui sont disséminées un petit peu partout sur la map. Mais des banques qui vont fermer en fait pendant la partie. Donc il faut faire attention en fait à pas se faire tuer parce que tu perds la moitié de tout l'argent que tu as gagné. Et aller après chaque vague déposer l'argent dans les banques qui réouvrent. Voilà, après chaque vague en fait ça réouvre. Donc j'ai trouvé ça très fun et très intéressant avec un petit côté stratégique. Voilà, donc on a vraiment un mode multi qui a été densifié. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça manquait de vie. Et on se retrouve avec une campagne solo qui cartonne, qui raconte une belle histoire avec une belle relation. Voilà, on s'attache vraiment encore une fois au titan. BT, il est vraiment génial, il est plein d'humour, les dialogues sont fins, c'est subtil, enfin j'ai vraiment adoré. Et un multi qui est intéressant, qui est dense, qui est riche. Donc clairement pour moi,
c'est un jeu qui se joue super bien, qui va super vite.
Ça va vite, c'est dynamique, c'est très nerveux. On gagne encore en nervosité. Il y a aussi eu un petit changement. Vous le savez, si vous avez un petit peu joué à Titanfall premier du nom, à un moment donné, on débloquait un titan qui arrivait donc sur le champ de bataille. Ouais. Il y avait une jauge, il y avait un timer en fait, hein, qui permettait de savoir quand le titan allait arriver. Ouais. Donc même les joueurs qui n'étaient pas forcément doués, qui n'arrivaient pas à faire du kill, pouvaient se planquer tranquillement en attendant leur titan. Là, c'est différent puisque le système de déblocage des titans va se jouer sur le score. Alors, il y a quand même un timer en fond, mais tu peux le débloquer plus vite, plus facilement. Mais il faut aller au combat puisqu'il faut faire du kill. Donc, je trouve que ça pousse au challenge. Et il y a une vraie récompense quand tu as ton titan, puisque il faut aller au combat pour l'obtenir, ton titan. En revanche, ils sont un petit peu moins résistants, mais du coup, ça équilibre le jeu. Donc, très clairement, je trouve qu'il y a eu des améliorations. Le matchmaking a été amélioré, on trouve beaucoup plus rapidement des parties. On peut plus facilement trouver ses amis pour jouer dans des parties privées. Enfin, je trouve que clairement, il y a eu un vrai travail. Ils ont écouté les fans et nous offrent quelque chose de solide. Parce qu'on aurait pu aussi avoir une campagne solo juste pour dire bon, allez, vous en vouliez une, on vous en file une, allez, vite fait, on fait une petite campagne solo classique. Bah, pas du tout. Donc pour moi, clairement, Titanfall 2 revient sur le devant de la scène et pour moi, il éclate tout le monde. C'est vraiment pour moi le FPS de cette fin d'année.
Bon, on verra. On en reparle.
Attention, la Carole.
Mais en tout cas, si on t'écoute bien, c'est probablement donc c'est l'outsider, comme tu disais tout à l'heure.
C'est ça.
Et c'est probablement celui qui peut peut-être créer
la surprise
et puis qui peut faire la différence aussi, qui pourrait peut-être évincer, qui sait, un des deux autres. Imaginons. Bon, faudrait que les ventes suivent.
J'ai peur de passer dans un autre segment là.
Ouais, non, mais voilà, il faudrait que les ventes suivent et ça, c'est une autre histoire. On va finir avec.
Je suis pas sûr que ce soit ce que EA souhaite aussi.
Oui, je crois pas non plus. Hein. Je crois qu'ils veulent que les deux cartonnent, mais bon.
Ah, c'est un petit peu ça, ouais.
On va finir avec celui qui a été tellement boudé sur YouTube quand il a posté son premier trailer. Celui qui a eu droit à tous les pouces rouges de l'univers. Celui qu'on aurait pu appeler Infinite Warfail, presque. Tellement.
Oh,
ah non, après, ça marche avec tous. Hein, avec Battle Fail, Infinite Warfail ou Titan Fail aussi.
C'est dur d'enchaîner après ça.
Ouais. Hein. Tout le monde l'a détesté au début, mais au final, maintenant,
moi
voilà,
premier,
qui est sorti.
Hein, je crois que j'ai créé un compte YouTube juste pour mettre.
Ah bon.
Non, c'est pas cool. Là.
Mais
non,
au final, cool. Infinite Warfail, donc est sorti ce vendredi 4 novembre sur PS4, Xbox One et PC. Bah, il est là, ça y est, et on sait que au final, c'est pas du tout une arnaque, c'est pas du tout,
du tout.
Un mauvais jeu comme ce que tous les YouTubeurs qui ont appuyé sur le bouton rouge, sur le pouce
après,
rouge.
C'était un effet de mode, hein. faut pas se le cacher.
Aussi.
À la base, je pense quand ils ont mis ce trailer. Bon, déjà, c'est vrai que au niveau com, j'ai pas trop compris parce que le trailer en lui-même n'était vraiment pas époustouflant quoi. Hein. Ils ont l'habitude de nous sortir des trailers, c'est des super productions un peu hollywoodiennes comme comme ce qu'on fait au cinéma, qui on envoie vraiment du pâté quoi. On est là, waouh. Et là, ce premier trailer, je pense, ils étaient peut-être pas forcément prêts, mais par rapport au calendrier, on sait un petit peu chaque année, c'est toujours un petit peu la même périodicité des uploads, etc. Il fallait qu'ils sortent quelque chose parce qu'on connaissait pas encore le nom du jeu. Les fans étaient aux aguets pour savoir. Il y avait pas mal aussi de rumeurs, peut-être un World at War 2, donc un jeu dans le passé ou dans le futur, on savait pas trop. Donc pour mettre fin aux rumeurs, je pense qu'ils se sont dit bon, on balance un truc.
Et ça, ils s'est taclé d'ailleurs. Ça.
Ouais. Et c'était pas franchement ce qu'ils ont fait de mieux en termes de trailer. Donc d'une part, les gens étaient vachement déçus de voir qu'on restait dans le futur, dans un gameplay vraiment avancé, avec des mouvements avancés, puisque il y a beaucoup de monde qui réclame un retour aux sources de la licence, c'est-à-dire
pour les premiers épisodes, c'était période Deuxième Guerre mondiale.
Et du coup, on voit qu'on reste toujours dans la même optique, avancé de plus en plus loin dans l'avenir, dans le futur. Donc ça a déçu pas mal de monde, et le trailer en lui-même qui était pas top. Donc les dislikes forcément sont faits ressentir. Après, il y a eu l'effet de mode, etc., qui a aggravé le phénomène. Et en fin de compte, les gens se sont emballés en disant voilà, ce jeu, moi je l'achèterai pas, il m'a déçu, etc. Mais en fin de compte, un trailer, il n'y a pas de gameplay.
Bien sûr.
En tant que tel, je veux dire, il n'y a pas de gameplay. Personne te donne son avis en l'ayant sous la main, en l'ayant testé. Donc moi, voilà, j'étais quand même sur la réserve. Je me suis dit, bon, effectivement, le trailer moi-même, il m'a pas convaincu, mais j'attends d'en savoir un petit peu plus. J'attends de voir des phases de gameplay.
De jouer surtout.
De jouer, là, vraiment, pour avoir un avis définitif. Mais voilà, c'est vrai que les feux n'étaient pas tous au vert à ce moment-là de l'année. Et au fil du temps, voilà, on a commencé à voir du nouveau contenu, à entendre des interviews des développeurs qui du coup, eux aussi, je pense, ils avaient un petit peu chaud aux fesses.
Ils se sont dit, attends, il faut qu'on les rassure.
Exactement, il faut qu'on rassure la communauté, puisque c'est quand même un gros jeu, un blockbuster. Il y a énormément de fans.
C'est Call of Duty qui rafle la mise, hein, de toute manière, en matière de FPS. Donc là, il vaut mieux préparer le terrain et faire, oh là là, attendez, calmez-vous.
Exactement, et la communauté est vachement réactive, c'est-à-dire dès qu'il y a un truc qui va pas, ça tweet, c'est action réaction.
Et puis donc, toi, tu le vois, t'es au fait de ça, toi.
Je le vois tous les jours, que ça soit sur YouTube ou que ça soit sur les réseaux sociaux.
Et toi, avec Code QG en plus, t'es au cœur de la communauté.
Exactement. Moi, au niveau Call of Duty, c'est clair que je suis au centre. Je suis vraiment entre les studios et la communauté.
Parce qu'il a quand même, je sais pas si tu le savais, elle-même, toi Camille, la plus grosse chaîne communautaire autour de Call of Duty, Code QG. Donc ça, c'est les réactions de la communauté,
je suis aux avant-postes pour le coup. Et c'est vrai que voilà, je pense que les développeurs se sont dit waouh, ok, la communauté n'est pas du tout contente, c'est trop tard de toute façon pour refaire un revirement de situation.
On annule l'espace en fait finalement. c'est pas possible.
Rentrer les croiseurs interstellaires.
Non, mais vu la vague de entre guillemets de haine qu'il y a eu, ça aurait pu être carrément la solution. On change de scénar, on stoppe le jeu en cours, mais voilà, c'était trop avancé dans l'année.
Donc ils ont filé Modern Warfare comme ça équilibre un petit peu.
C'est vrai que ça fait partie, c'est un autre débat. On en parlera aussi.
Excuse-moi, j'avais pas cité dans l'histoire des segments. Bien sûr que c'est mon segment, laisse-moi finir mon approche.
Mais c'est vrai que c'est aussi un débat sur lequel on pourra discuter. Et donc voilà, je pense que au fur et à mesure de l'avancement, donc dans l'année, ils se sont dit bon, nous, notre jeu, voilà, c'est notre bébé, on a misé dessus pour cette année, on va le défendre et on va montrer aux gens que peut-être ils ont eu un raisonnement et un avis un peu trop hâtif et qu'il faut en savoir un petit peu plus. Donc au fur et à mesure du temps, on a commencé à avoir de plus en plus de contenu, notamment de la campagne, où ils ont pris quand même des acteurs de renommée internationale pour jouer certains personnages.
Il y a Kit Harington qui joue quand même le méchant du jeu, qui est quand même Jon Snow, celui qui ne sait rien.
Il y a toujours des castings assez impressionnants. Ouais. Rien de nouveau, Kevin Spacey quand même.
Ils sont permis aussi le champion actuel du FC, dont j'ai oublié le nom évidemment, parce que j'oublie toujours les noms.
Moi aussi, alors les noms ne me demandent jamais les noms. Voilà,
donc ça y est, je vais me rappeler. Vous trouverez sur les forums.
Voilà, bien sûr.
Ou alors c'est écrit dans mon test.
De ce grand combattant. du FC qui a été champion là il y a pas encore très longtemps là. Putain, il est irlandais ou écossais. Ah ça y est, j'ai pas entendu jamais. Ah,
je,
là,
mais
là,
ça
là.
Doit être écrit dans mon
tête. Bref, je vous lève demain de qui
voilà, ils ont quand même voilà.
Il y a toujours des beaux castings hein. Mais enfin pour moi c'est pas ça qui fait le jeu.
Évidemment, c'est pas ça qui fait le jeu, mais voilà, on peut quand même se rattacher à des personnages.
Au final, donc ça se passe un peu dans l'espace, mais il y a quand même du FPS classique au sol.
Alors, je vais laisser Léo parler du multi, parce que lui, c'est vraiment...
Commence par la campagne, c'est
bien.
Ouais,
je pense Allez, ok, on parle du solo. Donc
moi, je finirai sur le multi.
Encore une fois, mon test est disponible sur Gameblog. Certains se poseront peut-être la question pourquoi j'ai tenu à mettre 7, parce que pour moi clairement c'est moins bon que Titanfall. J'ai toujours été très très fan de Call of Duty, Léo tu le sais, moi vraiment c'est une série que j'adore. Pour moi jusqu'à aujourd'hui Call of Duty était le roi du FPS. Mais là ça commence un peu à tourner en rond. C'est très classique. C'est bon d'ailleurs, 7 c'est une note qui traduit le mot bon. Voilà, c'est bon. Par contre pour moi c'est pas incroyable et magique. À un moment donné je trouve déjà qu'on s'éloigne énormément de l'ADN de Call of Duty. Parce qu'il faut pas confondre non plus renouveler un jeu et savoir apporter quelque chose de nouveau, rafraîchir, et totalement oublier son ADN. Tu peux te renouveler tout en gardant ce qui fait ton identité. On le voit notamment
mais l'ADN
par exemple
d'un Call of Duty, c'est comme pour un Battlefield ou j'imagine un Titanfall. C'est que pendant la campagne solo il faut que ce soit hollywoodien, il faut que ça pète dans tous les sens, il faut que ça s'arrête jamais.
Oui bien sûr,
et d'ailleurs, ça a l'air d'être le cas,
et d'ailleurs c'est le cas, sauf que pour moi Call of, ben voilà, c'est moi j'aimerais qu'on revienne à du Modern Warfare, tu vois, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, à la Seconde Guerre mondiale, à des trucs un petit peu plus, comment dire,
actuel,
ouais, authentique, pas trop partir dans le futuriste. Pour moi, c'est pas Call of. Pour moi, ça c'est pas du Call of. D'ailleurs, tout à l'heure, on regardait avec Léo, on regardait à nouveau des vidéos de la campagne solo et du mode VR aussi, dont je vous proposerai le test prochainement. C'est, je veux dire, on se disait, mais tu rentres dans la pièce, tu regardes et on te dit c'est du Call of, tu le croirais pas. On a effectivement pas mal. Donc de bout de campagne,
on pourrait dire
dans l'espace.
Que Call of et Titanfall ils partagent quasiment tout.
Sauf les titans.
Il y a du wallrun dans Call of Duty.
Ne me gêne pas. Moi, ce gameplay, je l'ai adoré sur Black Ops 3. Pour moi, le wallrun, les double jump et compagnie, les dash, pour moi, ça dynamise le gameplay. C'est parfait. Tu peux faire des enchaînements. Pour moi, ça, c'est pas un problème. Pour moi, dans cette campagne solo, le problème, c'est vraiment ces phases de shoot dans l'espace que je trouve indigestes, qui sont molles. Il y a des moments où on n'est pas dans les vaisseaux, où on est largué dans l'espace, où c'est un peu flottant. Alors, effectivement, c'est réaliste, c'est très beau en plus, vraiment le jeu est magnifique avec de très beaux effets de lumière, les textures, les visages, c'est vraiment très très joli. Mais par contre ces phases dans l'espace, j'avais hâte que ça se termine pour retourner au sol et retrouver cet aspect vraiment nerveux de Call of Duty et courir sur le terrain avec mon soldat et continuer à faire ma campagne. Vraiment pour moi ça n'a rien à faire là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe et c'est pas du Call of. Alors après il y a de bonnes idées comme par exemple les quêtes annexes. Pour la première fois dans un solo de Call of Duty on peut faire des opérations spéciales d'ailleurs qui vont nous entraîner sur les différentes planètes du système solaire. Ça c'est très très classe. Effectivement il y a un vrai rythme, c'est hollywoodien, c'est beau, ça explose dans tous les sens, mais voilà, globalement ça reste classique, mais tout en s'éloignant de l'ADN de ce que pour moi est vraiment Call of Duty. On s'éloigne de l'identité, mais voilà, il y a rien d'exceptionnel. On se retrouve, donc on a un mecha aussi avec nous, enfin un humanoïde qui s'appelle Ethan, qui est assez cool aussi. Il y a des dialogues intéressants. On sent bien que les développeurs ont envie de jouer sur ça, les relations entre les mechas et les pilotes, etc. Mais c'est clairement moins bon et moins surprenant que Titanfall 2, que la campagne solo de Titanfall. Le multi, il est génial parce que forcément bah c'est toujours du Call of, donc forcément c'est efficace, ça marche très bien, mais voilà, ça reste, enfin il y a pas de surprise. Le zombie ultra fun, je me suis éclatée surtout dans une ambiance années 80.
Zombie
avec
Space Land, oui, qui est un mode
Spaceland,
spécial
voilà, dans
avec
un parc d'attractions
avec une ambiance années 80 et David Hasselhoff
bien sûr. Donc c'est vraiment très très fun, ça fonctionne très bien, je l'ai dit pour moi c'est un bon jeu. Par contre c'est pas surprenant et pour moi c'est plus du Call of.
Alors
Tizo,
t'as peut-être envie de rebondir là-dessus parce que toi t'as plus joué au multi.
Il est pas trop solo.
J'ai entendu Prestige 2 tout à l'heure, genre
on est premier mondial actuellement. En termes d'avancement dans les niveaux,
oui, donc tu as beaucoup joué finalement.
Oui
voilà, tu l'as rincé,
ouais. Donc ouais, moi c'est vrai que la campagne, je vais pas le cacher, c'est pas ce qui m'intéresse dans un jeu multijoueur. Pour moi, c'est des, voilà, que ce soit Battlefield, que ce soit Titanfall ou Call of Duty, c'est des jeux multijoueurs. C'est-à-dire que voilà, pour moi, la plus grosse partie du jeu, c'est le online. Donc voilà, Call of Duty, c'est pareil. La campagne, je l'ai pas faite, donc je pourrais pas m'exprimer dessus. Par contre, le multijoueur, c'est quand même, je pense, 70% de la communauté Call of Duty. Si on parle pas du zombie, parce que c'est vrai que maintenant ils ont rajouté le zombie, c'est la première fois qu'il y a un zombie dans un jeu d'Infinity Ward.
Ouais. Mm-hmm.
Parce que d'habitude c'est Treyarch qui fait du zombie. Donc là c'est leur premier zombie. Comme l'a dit Carole, voilà un univers voilà vraiment intéressant, original, coloré,
très
voilà,
fun, ouais.
Et assez fun. Et je sais qu'il y aura pas mal de voilà de petits easter egg et de petites choses cachées comme ça, donc je pense que le zombie va vraiment être super cool. Au niveau du multijoueur, donc comme je vous l'ai dit, je pense que c'est une grosse partie donc d'un Call of Duty qui intéresse le plus la communauté, c'est le multijoueur. Les mécaniques de gameplay sont les mêmes que celles de Black Ops 3 à très peu de choses près. C'est à dire que voilà, c'est des wall run, en fait on a un jetpack qui nous permet donc de doser un petit peu notre saut, de courir sur les murs. Le jeu donc au niveau des mécaniques est à peu près le même, mais voilà, moi ce qui m'a vraiment dérangé là depuis que j'y joue depuis 2-3 jours, c'est vraiment les maps, en fait les maps multijoueurs. Pourtant ils nous avaient parce que moi j'étais au Call of Duty Championship, donc au Code XP, c'était un événement donc où il y avait un tournoi à 2 millions de dollars. Ouais. Donc, toutes les équipes pro, et également le World Reveal en fait d'Infinite Warfare. Et du coup on a pu aussi discuter un petit peu avec les développeurs qui étaient présents, et ils nous avaient dit que voilà, on a vraiment misé sur les maps en plus, avec des univers originaux qui va nous amener de planète en planète pour respecter quand même la ligne directive du solo.
Mais elles sont pas bien construites.
Mais au niveau de la construction, moi, voilà, du level design, on va dire, c'est trop chargé en fait. Y a des tops, il y a des souterrains, y a beaucoup d'éléments. Donc c'est, d'un point de vue visuel, c'est joli à voir, mais pour du gameplay, c'est très très compliqué. Du coup, on doit check 5-6 endroits dès qu'on arrive dans une salle, parce qu'il y a plein de possibilités, en plus du fait des exos, enfin du jetpack, on peut passer
encore une fois, un peu comme dans Titanfall en fait, hein. C'est vraiment, t'arrives dans un endroit et il y a des points d'entrée à peu près partout, et tu sais que tu peux te faire canarder
à peu près partout. De tous les styles différents en fait, c'est ça que j'ai trouvé intéressant moi sur le multi par contre.
Alors au niveau du multi, donc voilà, c'est moi ce qui m'avait dérangé, c'était pour l'instant c'est les maps. On verra, il y aura des DLC, ça je sais qu'on en parlera un petit peu plus tard.
Nuketown aussi qui devait refaire encore une fois pour celle-ci.
Il y a eu des rumeurs du Nuketown.
Il y a Terminal là.
Mais il y a Terminal, donc c'est une map vraiment emblématique
culte
de la licence qu'ils ont remasterisé, enfin remake. Donc là avant
sur la lune.
Voilà, avant c'était un aéroport, là c'est une base spatiale, on va dire. Donc c'est assez sympa. Mais donc voilà, le multijoueur est voilà, assez solide, puisqu'ils ont gardé l'essence de Black Ops 3 qui a fait ses preuves et dont la communauté a vraiment été relativement satisfaite, parce que ça reste dans la lignée de Black Ops 2 qui, pour la communauté dans son ensemble, est le meilleur multijoueur à ce jour. Donc,
pourquoi
voilà.
Il avait introduit des trucs, des nouveaux trucs dans Black Ops 2?
Alors en fait, on va dire que c'était le plus équilibré au niveau comment expliquer ça. C'est-à-dire que les anciens Call of Duty, c'est vrai qu'ils sont au niveau voilà de l'atmosphère, un petit peu guerre mondiale, un petit peu old school, etc. Ils sont excellents. Mais après, c'est vrai que pour du gameplay aussi, pour faire de l'e-sport, il y a des carences quoi, il manque quand même pas mal d'éléments.
Il y avait encore des trucs qui permettaient à un noob de pouvoir évoluer peut-être plus rapidement, de profiter. C'était dans Black Ops 2 qu'ils avaient introduit un truc justement pour que ce soit ton skill qui soit récompensé et pas
les score streaks.
Voilà, les score streaks, exactement.
Exactement.
C'est-à-dire ça, c'est
que
génial.
Ça, c'était une bonne chose. Et avant, donc il fallait faire des séries de kills pour débloquer des hélicos et ce genre de choses.
La petite bagnole, etc.
Exactement. Voilà. Et du coup, ça encourage un petit peu la camp, justement pour faire ces séries.
Les fameux campeurs.
Et les fameux campeurs, bon, je pense qu'on retrouve sur tous les multijoueurs de manière générale.
Ouais.
Et là, donc, ils avaient changé ça sous forme de score streak, ce qui en fait permettait d'augmenter sa jauge pour débloquer, pareil, les hélicos, etc. Mais avec toutes les actions, que ce soit des actions à objectif, en allant capturer un drapeau, en sécurisant une zone, mais aussi des kills. Donc ça, voilà, c'était sympa qu'ils aient mis ça en place. Et donc c'est le multijoueur donc le plus apprécié de jusqu'à maintenant donc de la licence. Et donc on garde cette âme là. Donc le multijoueur est vraiment bon. Il y a beaucoup de gens qui sont dit voilà, c'est vrai qu'il y a eu la bêta donc il y a quelques jours, et au début donc elle était réservée à ceux qui avaient précommandé le jeu, et ensuite elle était open pour tout le monde.
Pour les autres, ouais.
Donc tout le monde a pu mettre la main dessus et savoir est-ce que effectivement il est mauvais comme on le pensait il y a quelques mois, ou c'est pas le cas. Il y a eu beaucoup de gens qui ont retourné leur veste. Moi j'ai vu beaucoup d'avis de gens qui ont dit ah ouais, c'est vrai qu'en fait finalement tout compte fait il est pas si mal. C'est juste je le connaissais pas forcément assez avant de me prononcer. Et donc mon avis, c'est que c'est pas le meilleur de la série. Franchement, ça c'est indéniable. Mais je pense que voilà, il a des atouts pour être un bon Call of Duty, pour avoir une longue durée de vie, parce que c'est un jeu qui est quand même vachement complet, que ça soit au niveau de la campagne, au niveau du multijoueur, au niveau du zombie. Aussi, donc comme le soulignait tout à l'heure Carole, il y a la possibilité d'avoir Modern Warfare 1 remasterisé dans le pack, dans le bundle. Donc je peux l'englober
c'est un beau cadeau, ouais,
dans
pour
le paquet, c'est
mais,
un
c'est,
beau.
Mais c'est ouais. uniquement avec les éditions.
Alors
Legacy.
C'est une édition
Legacy,
avec 10€ de plus. Ouais. Donc ça veut dire 2 jeux pour 80€. Voilà,
complètement.
Ça,
oui, non,
c'est
mais
pas...
c'est honnête. Surtout que c'est vraiment une belle remasterisation. Hein.
Elle est loin
d'être paresseuse.
Elle est très très loin d'être paresseuse. C'est Raven, le studio Raven qui s'en est chargé. Il y a la campagne aussi sur ce Modern Warfare et le multijoueur avec des ajouts pour le mettre un petit peu au goût du jour. Ils ont d'ailleurs remanié aussi l'ATH du jeu, ils ont mis des prestiges.
Et il y a une dizaine de maps, c'est ça?
Il y a toutes les maps
qu'il y avait
à
Modern Warfare. D'accord.
Et apparemment un DLC aussi qui viendrait sur ce jeu.
Oh là
donc
là, bah.
Si on englobe tout ça en un seul opus, ça fait quelque chose de solide quand même.
Oui, c'est costaud.
Mais même sur le multi, moi j'ai apprécié tous les petits, les nouveaux score streak, puisqu'il y a, on a une variante de la tourelle, je sais pas si tu l'as utilisée, une tourelle en fait qui envoie des décharges électriques, mais qu'on retrouve aussi dans le solo.
De toute façon,
plein de petites subtilités, les grenades chercheuses qui sont hyper efficaces
également. Les espèces de
petites araignées. Ouais, elles sont vraiment sympas. Ouais. Elles sont vraiment cool.
Donc, ils arrivent quand même à renouveler un petit peu au niveau de l'arsenal.
Oui,
il l'adapte à l'époque, là, vu que c'est futuriste forcément.
Voilà, il y a beaucoup de trucs électriques et j'ai trouvé ça aussi intéressant. Il y a toujours des petites nouveautés dans les score streak, des petites subtilités comme cette tourelle qui ressemble à l'ancienne.
Je voulais juste dire
un
dernier truc. En fait, quand on a vu le premier trailer, on s'attendait vraiment à un truc dans le futur, mais vraiment loin. C'est-à-dire peut-être avec de la pesanteur dans le multijoueur, que
y a
des
armes. Il y a les grenades anti-gravité qui sont classe.
Ouais, mais alors en multi,
elles sont dans le solo.
Elles doivent être dans le solo, mais en multi,
ça,
voilà.
Ça, c'est classe.
C'était la peur des joueurs, c'est qu'on aille tellement loin dans le futur que pour rester cohérent entre le solo et le multijoueur, ils incorporent ça aussi dans le multijoueur. Et du coup, là, effectivement, on ne trouverait pas l'aspect Call of Duty. Ce serait vraiment trop loin de l'ADN d'un Call of Duty. Or là, voilà, c'est futuriste. Les armes sont futuristes. Il y a des armes à rayons,
à énergie.
Donc, qui envoient des espèces de faisceaux. Voilà. Mais il y a des armes avec des munitions traditionnelles qui tirent des balles.
Donc finalement, c'est rassurant par rapport à ce qu'on pouvait espérer.
Le multi, honnêtement, c'est banco. C'est ce que je disais. Si tu joues pour le multi, t'es pas déçu, c'est du Call of Duty. Voilà, c'est du Call of Duty, comme tu dis.
Ça reste vraiment
c'est pas
un Call
le meilleur.
Of Duty. On prend ses marques assez rapidement.
Exactement. La campagne, elle a ses défauts, ses qualités. C'est pour ça que pour moi, le jeu est bon, mais il méritait pas. Il mérite pas, en tout cas.
Peut-être qu'ils se rattraperont l'année prochaine avec un épisode un peu plus.
Moi, je préférais qu'ils fassent une pause.
Ils prendront des
risques.
Enfin,
Léo, ça lui plairait pas, mais. Moi, je préférais qu'ils fassent une pause. J'en parlais hier pendant mon live. Tu vois, par exemple, Assassin, c'est très bon, Assassin. Mais au bout d'un moment. ça commençait un peu à tourner en rond, toujours la même chose, toujours la même chose, toujours. Alors, remarque qu'au moins ils perdaient pas leur ADN. Mais en tout cas, ça tournait en rond, ça tournait en rond. Donc là, cette année, on en a pas.
Ouais,
ça
mais
crée
alors,
un peu un manque. Et ça permet de se renouveler, de revenir mais
plus
fort.
Des fois, ça crée pas de manque. Des fois, t'as un Guitar Hero ou un Rock Band et en fait, je me rends compte qu'il y a pas eu de manque.
Ouais,
hein,
non, mais ça, ça me manque pas non plus, je te rassure. Mais tout ça, en tout cas, ça dépend des goûts, c'est subjectif. Mais t'allais dire quelque chose.
Non, le truc, c'est qu'il y a trois studios différents qui tournent. S'il y avait qu'un seul studio, je serais d'accord avec toi dans le sens où voilà, le studio, peut-être, il commence à manquer d'inspi, mais il faut qu'il sorte. Voilà, un nouveau Call of Duty. Donc. Faire une pause, on met tout, on fait table rase, on essaye de trouver des nouveaux concepts, des nouvelles choses, et on repart sur quelque chose de nouveau qui voilà pourra ravir les nouveaux et les
et
anciens,
les
parce que c'est,
ce qui est, ce qui est
c'est
compliqué.
Ça la difficulté.
C'est très complexe.
Exactement.
Très
justement,
complexe.
On va passer maintenant à.
Alors juste une dernière phrase, mais je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement, mais par exemple quand tu compares le gameplay de quand tu compares Infinite Warfare avec Black Ops 3,
oui.
Ça se ressemble énormément.
Ah oui,
sur
ça
le
se
multi,
ressemble énormément.
Tu comprends? Que ce soit Treyarch ou Infinity Ward, on a, enfin, ils bossent ensemble les mecs, hein. Donc à un moment donné,
ils se concertent, mais c'est quand même des studios.
Après,
oui,
ont, tout le monde peut pas se permettre de bouleverser ces séries comme ça non plus, Carole.
De toute façon, on va en parler là.
Bah oui, voilà, il y a un nouveau segment qui s'ouvre à nous.
Exactement, parce que maintenant, on va pouvoir comparer un petit peu ces trois jeux. On va essayer de savoir. Pour essayer d'amener justement une réponse claire, nette et précise sur quel est le FPS de cette fin d'année, on va faire une petite comparaison de chacun pour savoir à quel public il se destine aussi, hein, parce que c'est pas non plus des jeux qui se destinent à tout le monde de manière générale. Et j'ai envie de demander d'abord, pour la campagne solo, si je vous consulte tous les trois, lequel a la meilleure campagne solo?
Bah moi,
comme toi,
Très mal placé pour en parler, parce que j'ai fait aucune des trois.
Par exemple, imaginons un joueur, voilà, un joueur qui veut découvrir un FPS solo. Et qui veut juste se plonger dans une super histoire solo et qui touchera jamais au multi. Lequel il vaut mieux qu'il touche?
Je pense, au vu de ce qu'on a dit, Carole, de Titanfall, apparemment, ça a l'air d'être le solo le plus passionnant. Mm. Donc je dirais Titanfall.
Titanfall, je dirais égalité Titanfall et Battlefield. Bien sûr, j'ai commencé le solo de Titanfall. J'ai beaucoup apprécié, je suis d'accord avec Carole, à ce sujet. Après, j'ai beaucoup aimé aussi le solo de Battlefield. Donc, mais moi, c'était vraiment pour le côté historique aussi, faut le préciser. Mais ouais, pour le coup, je dirais Titanfall.
Titanfall 2, ouais, clairement. Ouais. Et d'ailleurs, tu me posais la question sur la durée de vie du solo de Call of. C'est à peu près 7h30. Ouais. À peu près similaire à Titanfall 2. Ouais.
Donc voilà, déjà pour ça, c'est réglé. Titanfall 2 gagne haut la main le solo. Enfin, haut la main. Avec une petite égalité quand même avec Battlefield. Ouais. Mais bon, pas convaincu. Hein. Ouais, Camille, t'es le.
Oui, moi, je suis d'accord aussi. Si j'achète Battlefield, c'est avant tout pour jouer au multijoueur. Donc après, Titanfall 2, il y a ce petit côté intelligent pour l'histoire et je trouve ça assez sympa.
Et si quelqu'un veut jouer au multijoueur? Mais alors, on va faire un petit.
Personne va être d'accord.
Ouais, justement, c'est là que c'est cool. C'est que personne va être d'accord. Mais d'abord, on va rajouter une autre subtilité. C'est, je suis un noob et j'ai envie de me lancer dans du multijoueur.
On va mettre plus
un noob, mais un vrai noob. Genre, je suis vraiment une burne. Et j'ai envie d'apprendre justement à progresser dans un jeu. Lequel est le plus, sympa avec moi, le plus miséricordieux, dans lequel je vais peut-être avoir plus de chances de survivre et plus de chances de réussir à évoluer rapidement.
Moi, franchement, j'aurais envie de dire Battlefield 1.
Ouais.
Parce que, en fait, vu que les maps sont super grandes et qu'on n'a pas, au final, beaucoup de duels. À gérer, on peut très facilement rester caché, utiliser les maisons, les fenêtres, etc.
Oui, c'est un jeu de campeur un peu aussi, un Battlefield.
C'est pas forcément un jeu de campeur.
Poufy est sûrement le plus gros campeur de la galaxie.
C'est forcément un jeu de campeur parce qu'on peut aussi jouer vachement nerveux. J'ai vu des gameplays où les mecs au snipe enchaînaient des.
Ah, j'ai vu un mec avec une grenade de Première Guerre mondiale qui a fait péter un biplan comme ça. Il a réussi à acheter une grenade comme ça en l'air. Le biplan a atterri pile dessus et pam. Et ça m'a fait halluciner. Mais bon.
Donc moi je dirais Battlefield dans le sens où il y aura moins de duels, donc quelqu'un qui a un petit peu du mal avec les joysticks pour aligner les ennemis, il pourra quand même faire du kill sans forcément avoir un skill de fou quoi.
Vous partagez cet avis, Carole et Camille?
Écoute, moi je suis pour moi le multijoueur clairement
accessible
jusqu'à
accessible.
Voilà, pour quelqu'un qui veut se lancer dans du multi, c'est Call of.
D'accord. Titanfall 2 est pas du tout dans l'équation là.
Bah, il faut justement, c'est plus, je trouve que c'est plus entre guillemets, je dirais pas complexe parce que c'est pas compliqué, mais il y a la subtilité avec les titans, justement, c'est un peu différent.
D'accord.
Donc je dirais Call of, et puis voilà, c'est classique justement, c'est classique.
Ouais. Et du coup Camille, tu serais plutôt sur Battlefield toi.
Ben non, juste
c'est plus ton style.
Mais pour faire découvrir en fait, moi je serais un peu plus mesuré parce que en fait le truc c'est que ça s'adresse pas au même public, c'est-à-dire que pour moi,
tu n'y joues pas pour les mêmes raisons.
Titanfall et Call of, après dites-moi si je me trompe, pour moi ça reste un FPS arcade. Mmh. Battlefield n'est pas une simulation, loin de là, parce que si vous voulez une simu, vous allez sur Arma, vous allez trouver votre pied. Je suis le premier à adorer Arma.
Vous allez trouver votre pied, j'adore là. Cette.
Oui, trouvez votre pied. Ouais,
je prends pas ton pied, mais il faut que tu le trouves.
D'abord, faut que tu le trouves.
Je fais des mélanges, moi j'aime bien les mélanges d'expressions.
C'est pas tombé sur l'orteil d'un sourd, ça. Alors,
elle passe bien, elle passe bien.
Parce qu'il faut le trouver avant de le prendre. Oh, j'aime bien Camille.
Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais?
Pour Battlefield.
Pour Battlefield, en fait, c'est un peu un mélange d'arcade et de simu. C'est-à-dire qu'on a un peu les deux, semi-arcade ou semi-simu. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est vrai que sur Battlefield, on a un certain fun parce qu'il y a des véhicules. Ce qui n'est pas le cas.
C'est un peu plus terre à terre, Battlefield, en fait.
C'est ça.
Et puis, c'est plus réaliste, je trouve.
En fait, si on se dit, ah bah, j'en ai marre d'y aller à pied, bah, je prends un tank ou je prends un avion. J'en ai pour. Il y en a un peu pour tous les goûts.
Ou un cheval.
Ou un cheval, voilà. Il y en a un peu pour tous les goûts.
Une Epona.
Pour ce compte-là, je suis assez d'accord. Battlefield, c'est sympa pour découvrir les FPS, mais ça va être une approche différente. Après, si on veut un FPS un peu plus axé arcade, je serais aussi d'avis que ce serait plus Call of Duty. Pourtant, je suis le premier à pas aimer Call of Duty, mais si on connaît pas vraiment les FPS et qu'on a envie de s'acclimater à ce type de jeu, je pense que c'est un jeu qui s'adapte très bien. Après, les deux pareils à égalité. Moi, je suis là, je fais la Suisse, là, je suis neutre.
Voilà.
pour moi, c'est Battlefield et Call of Duty, pareil, c'est à égalité au niveau de la découverte. Je pense que
d'accord.
C'est
deux... Au niveau de l'équilibrage aussi, c'est bien agencé dans les deux cas.
Oui.
Quand on veut évoluer, justement, ça se passe bien. Il n'y a pas trop de moments où on va pester parce que le premier noob venu va nous éclater alors que bah, moi je l'avais dans mon viseur et j'aurais dû le buter, un truc comme ça. Il n'y a pas de truc qui choque quoi, dans l'un ou l'autre. Et dans Titanfall d'ailleurs au passage.
Non plus, non.
Alors là j'ai parlé pour Battlefield, mais je sais que évidemment les maps donnent forcément l'avantage à un moment ou un autre à un camp, mais en même temps c'est voulu, ça fait partie de la mécanique de jeu, surtout selon certains modes de jeu. Par exemple, dans le mode, alors je m'en rappelle plus exactement, le mode front, c'est une ligne qui avance et pas rush, c'est le nouveau mode de jeu, c'est. Alors je suis désolé, je m'en rappelle plus.
C'est pas grave, on te corrigera.
Donc ce mode de jeu qui est nouveau. Mais évidemment un bonus à l'équipe à un moment ou un autre, puisque quand on commence à perdre, on a le support d'un behemoth, donc c'est le fameux gros zeppelin qu'on voit dans le premier trailer, ou alors un dreadnought qui est un des croiseurs qui nous aide, donc sur la côte on peut bombarder avec celui-ci. Donc évidemment, au bout d'un moment, à un moment ou à un autre, on se retrouve
face à des injustices,
mais en même temps ça fait partie du jeu. Après évidemment, si on est à pied et qu'on se retrouve face à un tank, c'est injuste parce qu'on va se faire défoncer la gueule. Mais en même temps, c'est le jeu qui veut ça. Donc pour moi, il n'y a pas d'injustice dans Battlefield. C'est à un moment ou à un autre, on cherche ou on cherche pas. Si on est dans un char, bah évidemment, il va y avoir tous les joueurs autour qui sont
ou dans le train aussi d'ailleurs. Voilà,
qui sont assaut, donc qui vont balancer leur TNT ou leur grenade dessus. Du coup, tu auras bien cherché ce qui était dans le tank, mais du coup, c'est pas injuste. C'est vraiment le jeu qui pousse à faire ceci ou cela, quoi.
D'accord.
Donc pour moi, il n'y a pas d'injustice vraiment dans.
Et pareil pour Call of et Titanfall, c'est plutôt bien équilibré, ça progresse bien, c'est pas. Tout se passe bien de ce côté-là.
Bah de ce côté-là, je pense
après,
que.
Après, deux prestiges, normalement, tu devrais à peu près savoir.
Oui, il y a le multijoueur.
Bon, de ce côté-là, je trouve que c'est toujours assez équilibré sur Call of.
Depuis qu'ils ont ajouté des mouvements avancés grâce Advanced Warfare, le premier, avec l'exo, donc qui permettait de faire le double jump, et là les deux derniers opus avec le jetpack, je trouve que là les noobs de base, on va dire les campeurs de base qui restaient viseur fixe dans un coin, ils peuvent pas faire autant de kills qu'avant, parce que là on peut clairement prendre le dessus sur eux grâce à cette verticalité qu'offrent donc ces nouveaux mouvements. Un mec qui reste dans son coin, il sera jamais premier de la game, ça c'est sûr.
Tout à fait d'accord,
donc du fait des mécaniques de gameplay, je pense que ceux qui ont du skill, ils pourront prendre le dessus. Et il n'y a pas vraiment d'accessoires, d'armes, je pense. on les a à peu près tous testés. Il n'y a pas vraiment d'accessoires d'armes qui sont vraiment entre guillemets cheatés, j'ai envie de dire, qui vont faire la masse de kills pour tout le monde, quoi. C'est vraiment le skill qui va être privilégié. Après, il y a quelques, je pense qu'il y a quelques atouts qu'ils ont voulu ajouter pour ramener de la fraîcheur, qui vont peut-être faire polémique dans quelques semaines, dans quelques mois, quand les gens vont peut-être les utiliser à mauvais escient. Mais voilà, il n'y a rien vraiment de trop gênant pour le moment.
D'accord. On va peut-être parler aussi un petit peu justement des contenus supplémentaires pour les jeux, parce qu'il y a une politique de DLC à chaque fois pour chacun, aussi d'ailleurs au passage. Mais je voulais revenir, on a parlé du pack, hein, évidemment, pour Call of Duty qui est ultra complet avec un Modern Warfare en plus. C'est des trucs qui peuvent peser dans la balance aussi, ça, quand même, mine de rien.
Bah oui, évidemment, oui. Surtout quand on voit l'amour des joueurs pour, moi y compris, je pense que Léo c'est pareil.
Et le fait qu'un
Modern
Battlefield
Warfare...
se retrouve avec... des factions carrément en moins, et qui vont être vendues d'ailleurs là, ouais.
Pour le coup, on va pas jeter la pierre avant que ça soit fait, mais on sait pas si ça va être gratuit, ce fameux DLC, ou payant. Ouais. Alors, en connaissant la politique d'EA, qui sont les rois des DLC, à mon avis, ça sera payant.
Truc, c'est que Titanfall 2, lui, rien.
Voilà,
rien n'est payant.
Justement, gratuit. En allant dans ce sens-là, on n'est peut-être pas à l'abri d'une bonne surprise. Du coup, c'est gratuit, on peut toujours rêver. Ouais. Et comme tu le dis si bien, c'est vrai que pour Titanfall, on a fait la news il y a quelques temps là sur Gameblog. Il n'y a pas de politique de DLC qui est prévue pour. Enfin, de Season Pass qui est prévue pour Titanfall. Ouais. Du coup, on peut espérer peut-être des bonnes surprises pour Battlefield. Mais c'est vrai qu'il s'handicape un peu. Là, pour le coup, on va encore parler du pied, mais il se coupe le pied pour le coup.
Ouais.
Il se tire une balle dans le pied.
C'est cette histoire de pied.
Il se tire une balle dans le pied. Déjà, par rapport à ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah bah oui, mais moi, s'il n'y a pas mes deux factions majeures comme ça qui sont amputées, amputées.
Justement. Ouais, voilà, ouais, décidément. Le champ lexical est jusqu'au bout.
Le champ lexical du pied est très important en France. Ouais. Donc, bref, la France absente, c'est vrai que c'est ça fait mal. La Russie pareil. Alors en Russie ça a moins fait polémique parce que Battlefield c'est pas forcément une série.
Oui, puis ils jouent à World of Tanks, de toute façon, ils s'en foutent, ils sont là comme ça toute la journée. Exactement. da et puis c'est tout. Pardon, excusez-moi.
Non, mais c'est vrai que du coup c'est pas une
c'est un peu
saga qui
j'ai une sale image des Russes, c'est pas
possible. Énormément joué en Russie, mais en France, je sais que ça a fait polémique, ça fait beaucoup parler, et puis je suis le premier à le comprendre, puisque j'ai fait d'ailleurs une lettre ouverte à ce sujet à Electronic Arts, et c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre.
En termes d'entretien des jeux, de manière générale, des nouveaux contenus, ou essayer d'apporter des mises à jour qui vont justement affiner un peu le gameplay, que ce soit en multi ou en solo, ou je ne sais quoi, c'est toujours un bon suivi, que ce soit du côté de chez Activision ou de chez. Alors, c'est Respawn et DICE.
Ouais.
Là, de ce côté-là, si on doit dire je vais en acheter un pour être sûr que sur le long terme je serai pas déçu.
Alors chez DICE c'est particulier parce que à partir de Battlefield 3 ils ont fait beaucoup de DLC parce qu'il y a eu la pause entre Bad Company et vraiment la mode des DLC elle a pris vraiment toute son ampleur en partie sous Battlefield 3 et donc du coup c'est un peu le jeu qui a eu la surenchère de DLC. Mais après ils ont un peu changé leur politique, c'est à dire qu'ils ont commencé à faire mi-gratuit mi-payant. Ils ont balancé comme ça des maps gratuites parce que dans Battlefield 3, je sais pas si ça m'étonnerait que tu t'en souviennes, puisque toi t'es pas forcément un aficionado de cette série, mais ils ont par exemple fait des remasters des maps de Battlefield 2, il y avait Strike at Carcans, etc. Donc c'est des bonnes vieilles maps à l'ancienne, ils les ont fait payer. Et en plus, elles étaient au départ uniquement pour les préachats, enfin pour le pré-téléchargement, etc. Des bonus qui ont un peu fait grincer des dents. Et du coup, ils ont ensuite revu leur politique, ils ont proposé des maps gratuite à certains moments et aussi des DLC qui seraient gratuits. Par exemple Battlefield 4 il y a pas longtemps le dernier DLC est tombé gratuit. Enfin, on a des choses comme ça qui arrivent. Est-ce que c'est un changement drastique de la politique d'EA par rapport au DLC? Comme on l'a dit pour Titanfall, ils vont changer aussi. Je ne sais pas du tout. En tout cas, le suivi en lui-même est très bon. Si on a envie de payer un jeu 150€ à la fin, quoi.
Oui, voilà, c'était un peu ça ma question.
C'était
un peu ça ma question d'origine, quoi. C'était j'achète le jeu et je sais que j'aurai rien à débourser en plus pour que.
Le jeu de base est très complet, ce qui n'était pas forcément le cas de Battlefield 3 et Battlefield 4, surtout Battlefield 4. Mais c'est vrai que en plus c'est un système de faction complet, c'est même plus des maps, c'est carrément une faction. Il y aura peut-être même une histoire, une partie du solo qui se dira avec, donc on sait pas vraiment comment ça va se présenter, mais c'est assez problématique.
En tout cas, de ce côté-là, Titanfall 2 qui aura ses DLC gratuits, on sait pas combien il y en aura, on sait pas ce qu'il y aura encore pour l'instant.
On n'a pas encore d'infos sur le compte, sur les
alors
contenus.
Alors ils ont dit qu'il y aurait des maps, ça c'est obligatoire.
Ah bah
des
ça
maps
oui, ça c'est sûr. Mais
des
après
nouvelles armes et aussi des modes de jeu. Alors des modes de jeu, ils l'ont précisé, il me semble aussi. Mais après, je sais plus,
je crois qu'on a 11 ou 12 modes de jeu là sur le multijoueur.
C'est déjà bien,
pas mal. Ouais. Ce qui est déjà vraiment bien avec vraiment une diversité, mais je sais pas exactement ce qu'on aura en plus. On va voir, de toute façon, on vous fournira les tests.
Oui, et puis bon, comme on disait, Call of Duty, pas de problème. Allez, tiens, un zombie, un Modern Warfare, et puis on a les maps qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Normalement, de ce côté-là, ça se passe bien. J'avais envie de parler de quoi ensuite
Peut-être,
la technique, si je veux. Oui, voilà.
Si on veut
juste
un peu.
Si je veux juste en prendre plein la tronche. Si je veux juste faire oh putain c'est beau.
Bah là c'est clair que c'est Battlefield. Ouais. Ça y a pas je pense qu'il y a pas photo.
Je pense qu'il y a pas photo. C'est vrai que le moteur Frostbite 3 ils l'ont vraiment bien travaillé. En plus je l'avais précisé dans le test mais ils ont vraiment on s'assure vraiment qu'ils ont utilisé leur expérience sur Battlefront puisque notamment au niveau des images un peu photoréalistes dans la forêt, le travail qui a été fait sur la map Andorre, il a été beaucoup réutilisé pour la map Argonne et du coup on retrouve vraiment cet aspect photoréaliste quand on se penche, on voit les fougères, elles sont hyper bien modélisées. C'est assez impressionnant quoi. Après évidemment en plein de parties multi, on va pas
tu te penches pas forcément voilà. Tiens,
fougère. Tous les décors sont destructibles à chaque fois quasiment dans Battlefield.
Ce qui est impressionnant surtout dans ce Battlefield 1, c'est que contrairement au 4, le décor est beaucoup plus destructible. On a un Zeppelin qui va le fameux Behemoth qui va se casser la gueule, qui va exploser une partie du décor, les arbres qui se couchent, et surtout le terrain qui se creuse sous les obus et qui va aussi apporter une mécanique de jeu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se cacher et lorsqu'on se prend un bombardement, quand il y a un tank par exemple qui arrive, on est bien content de trouver un trou d'obus dans le sol pour pouvoir s'y cacher, s'accroupir dedans ou même s'allonger. C'est vraiment pas mal. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Battlefield 1 l'emporte l'eau à la main au niveau technique.
Bon, après, c'est pas ce qui fait un bon jeu, évidemment.
Exactement.
Écoutez, je crois qu'on aura fait.
Mais n'empêche
que ça. Ah, vas-y, dis-le.
Je te jure, j'ai adoré. Mais n'empêche que. Chez toi le soir quand tu vas fermer ta porte, Camille sera là. Camille, tu es fantastique.
N'empêche qu'on va pas parler ce qu'il est pas sorti cette année, mais c'est vrai que pour Battlefront, moi je suis premier, j'étais fan de Star Wars, donc pour moi le jeu il m'avait déjà un peu.
J'avais adoré moi Battlefront, mais un peu vide, tu tournais vite en rond.
Mais c'est ça, mais c'est vrai que Battlefront, je pense pas qu'il aurait eu l'aura qu'il a eu, déjà sans la saga Star Wars, mais aussi sans la beauté, intrinsèquement c'est magnifique.
C'est juste magnifique.
C'est, je pense, l'un des FPS les plus beaux, même peut-être au-dessus de Battlefield.
Il est magnifique.
Et ça, honnêtement, ça a beaucoup, je pense, ça a beaucoup aidé aussi à ce que le jeu se vende aussi bien. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un. Voilà, le trailer était déjà hyper vendeur quoi. Dès le départ le trailer
c'est Star Wars
et puis c'est du Star Wars mais en même temps c'est tellement immersif que tu te dis c'est super. Donc c'est vrai qu'avec un moteur graphique un peu moins bon, je pense que le jeu serait peut-être pas si bien vendu que ça.
D'accord, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour tout ça, que ce soit les contenus, la technique, le gameplay, etc. Du coup maintenant on va arriver à la question fatidique. Toi Carole, t'as déjà répondu mais bon.
Pardon.
Après, c'est une autre histoire. Bon, on va te reposer la question à toi en premier parce que comme ça, on évacuera. Carole, pour toi, cette année, quelle est, enfin cette fin d'année, parce que il y a aussi l'année. On en parlera encore un tout petit peu après avant de se quitter. Mais pour cette fin d'année, quel est le FPS qu'il faut absolument prendre?
Contre toute attente.
Attends, parce que tu ne l'as pas dit en début de podcast, donc vas-y.
Je ne l'ai pas dit. Titanfall 2.
Tu l'avais dit en fait.
Je l'avais dit. Voilà.
Titanfall 2.
Oui, Titanfall 2, sans hésitation. Pour moi, c'est clairement la méga bonne surprise. Donc voilà, le choix est fait pour moi.
Tizo.
Moi, franchement, c'est très difficile de répondre juste comme ça avec un nom.
Malheureusement.
Les jeux sont.
T'inquiète pas, on me fait chier tous les ans avec FIFA et PES, c'est pareil.
Voilà, exactement. Ouais. Ils s'adressent pas au même public, pas au même joueur. Mais voilà, moi, je trouve que le pack vraiment qu'ils nous ont proposé cette année au niveau Call of Duty, il permet d'avoir les deux côtés. C'est-à-dire, les gens qui aiment le côté futuriste, ils vont s'y retrouver avec le Infinite Warfare. Les old school, les anciens,
les pour les nostalgiques avec Modern Warfare.
Donc, je pense, si on englobe le pack, je dirais Call of Duty. Si on prend simplement le nouvel opus, je mettrais Battlefield 1 et Infinite Warfare vraiment
Battlefield 1 pour la fraîcheur à ce moment-là, ouais.
Peut-être Battlefield 1 pour la période, voilà, la première guerre mondiale. Je trouve que c'est osé de l'avoir traité dans un FPS, et ça marche plutôt bien. Donc si on prend simplement le jeu, je dirais légèrement Battlefield 1. Si on prend le package avec Modern Warfare, clairement ça voilà, ça fait la différence, je pense.
D'accord. Et toi, Camille ?
Bah, du coup, Battlefield.
Oh ! Bah, oh, la surprise ! Je m'y attendais pas.
Et ouais, malgré ce que j'ai pu dire, c'est vrai, sur l'absence de l'armée française, ça reste un très bon jeu.
Ouais.
Un très, très bon jeu qui vaut le coup. À de nombreux égards. Déjà, la campagne solo, est, comme je l'ai dit, est assez bonne. Le multi, évidemment, est excellent. Pour une fois, les maps, elles se valent toutes. C'est-à-dire qu'on n'a pas des maps qui sont un peu bidesques, où on dit, ah bah non, quand il y a la roue des maps, on se dit, ah bah non, j'ai pas envie d'avoir
Switch.
Celle-là. On la switch, on change de serveur. Non, là franchement toutes les maps sont assez bonnes. Peut-être une que je mettrais un peu en déca par rapport aux autres, mais sinon voilà, c'est, et puis surtout le nouveau système de jeu qui est vraiment sympa, qui vaut vraiment son pesant d'or, où on peut par exemple en fait c'est une campagne suivie, c'est-à-dire qu'il y a trois maps ou deux maps qui se suivent, et selon le résultat de la map précédente, ça va influer sur la map suivante. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros par exemple,
alors à cette heure-ci de la journée, non,
on a par exemple la map 51,
ouais.
Si elle est par exemple gagnée par les Allemands, la map suivante elle va commencer différemment que si ça avait été remporté par les Anglais.
D'accord.
Voilà, tout simplement.
Très bien.
Et du coup, ça, ce mode de jeu, il est vraiment sympa. Ça rapporte un beau vent de fraîcheur, je trouve. Après, pour les autres modes de jeu nouveaux, je serais un peu plus mesuré. Ils sont pas tous forcément au même niveau, mais ça reste très très bon. Et évidemment, pour moi, c'est sans. Par contre, oui. Pour les jeux sortis actuellement, après, je vous parlerai d'un autre jeu qui peut-être fera la différence, en tout cas pour moi et pour, à mon avis, pas mal de joueurs.
Alors là, on parlait des champions de fin d'année. Donc, si on fait un petit classement, on va dire qu'on a distribué des points presque. Hein. Battlefield 1 serait en tête, puisqu'il y a quand même deux suffrages vers lui. Titanfall 2, malheureusement, ne serait pas forcément premier, il serait même troisième. Désolé, Carole. Hein.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est la voix
des femmes. Ça reste moi, j'y ai joué.
Mais bon, la voix des femmes en 2016.
Tu m'as trahi.
Mais bon, globalement, ce serait Battlefield 1 qui s'en sort le mieux. J'ai l'impression qu'en tout cas, il a l'air d'avoir séduit tout le monde ici. Et que Titanfall 2.
On peut pas dire que c'est un mauvais jeu, honnêtement. Battlefield 1, quand on le teste, clairement, dès qu'on arrive, c'est une claque graphique, on peut pas le nier. Et voilà, ça fonctionne bien, l'immersion est totale, est quasiment totale, c'est vraiment bien ficelé. Après voilà, c'est, pour moi vraiment ça dépend de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche vraiment quelque chose de très très nerveux, très très dynamique, ou quelque chose d'un peu plus immersif et un petit peu plus réaliste. Voilà, c'est,
bon.
C'est...
Toujours est-il que l'hégémonie de Call of Duty n'est plus assurée, hein, comme ça a pu l'être les années passées. Ça vacille un petit peu, et puis ça fait du bien de savoir que d'autres aussi peuvent essayer d'élever un petit peu, de lever la barre justement pour que y ait de la concurrence, et que les FPS arrivent un petit peu à se renouveler aussi, proposer de nouvelles choses et à se montrer
agressif. C'est vrai que c'est difficile. Ça a été difficile pour moi de le noter, Call of, parce que.
J'ai l'impression que tu vas pleurer.
Je le disais d'un coup. Non, mais c'est diablement efficace, mais c'est tellement toujours la même chose. Et puis ce côté futuriste auquel j'accroche pas du tout. Donc,
auquel t'accroches dans Titanfall.
J'en ai un peu marre. Ouais, mais c'est pas la même licence. Je n'y joue pas pour les mêmes raisons. Vraiment, voilà, je le dis tout de suite, je n'y joue pas pour les mêmes raisons. D'accord, je n'ai pas trouvé mon pied dans.
Je ne suis pas développeur.
Parlait un petit peu pour maintenant. Là, ça, en gros, c'est pour les FPS de fin d'année, les habituels, j'ai envie de dire. Mais si on parlait sur l'année, parce qu'il y a aussi Overwatch, il y a Doom, Shadow Warrior 2.
Que tu as adoré.
Il y a Special que là qui va arriver, le Special de Focus qui visiblement a fait beaucoup d'effets.
Ouais.
Mais au milieu de tout ça, ces trois jeux, qu'est-ce que ça donne? Ah là, je vous pose une colle, hein.
Moi, je ne peux pas donner mon avis sur Overwatch parce que je n'ai pas du tout posé les mains dessus. Mais ce que je sais, c'est que j'ai eu des échos incroyablement positifs. Ça a cartonné, ça a été un vrai phénomène. Et toi, et toi, je sais que tu as surapprécié Overwatch.
Mais c'est pas moi, c'est Rudy.
Mais non, c'est toi, tu m'en as parlé hier, tu m'as dit Overwatch.
Mais non, mais moi non.
Tu n'as pas joué du tout.
Mais je joue pas au FPS. Car...
Tu n'as pas joué à Overwatch.
Excusez-nous, hein. Si vous êtes prêts, vous pouvez voir.
Hier, cette dispute qui va sur.
C'est de faire un aparté.
Hier, tu m'as dit, c'était génial, c'était génial.
Mais non, mais moi j'ai pas joué à Overwatch, tout ce que tu racontes.
D'accord, ok.
Non, mais j'ai pas joué à Overwatch. Moi je suis pas du tout.
Alors, parce qu'hier, tu m'en disais plein de choses.
Bah oui, parce que sache-le, il a eu une super note sur Gameblog. Rudy l'a adoré, il y a quelques joueurs.
Mais voilà, et donc je me dis que ça donne envie d'y jouer. Après, il faut avoir le temps, mais je pense que pense que ça doit être. Ça a l'air d'être sympa, quoi.
Bah oui, en plus, Overwatch est vraiment à part parce que t'as un gameplay totalement différent selon le personnage que tu joues. Ouais. Et rien qu'en cela, déjà.
C'est du team play essentiellement, voilà, aussi.
Rien qu'en cela, c'est totalement différent qu'un j'allais dire Counter-Strike, qu'un Call of ou qu'un Battlefield. Ouais. C'est un voilà, il y a 21 persos, même bientôt plus. Et on se dit, bah voilà, selon le perso que je joue, ça va être différent. Je vais m'amuser, je vais jouer différemment. Donc, du coup, pour moi, c'est pas vraiment comparable, mais c'est vrai que ça reste un très bon jeu. Et du coup, il a une très forte communauté aussi. Bah, en même temps, il y a la machine Blizzard qui est derrière, ça aide quand même pas mal. Déjà, et le jeu surtout est très bien suivi, et ça c'est une bonne nouvelle puisqu'il est quand même sorti il y a plusieurs mois. Les mises à jour sont encore très fréquentes. Il va y avoir là, il y a la BlizzCon qui va commencer
au moment où on enregistre, ça c'est dans quelques heures. Voilà.
Donc il y a des annonces pour le futur du jeu, donc ça s'annonce très bon pour Overwatch. Je pense qu'il a une belle durée de vie. De toute façon, avec les jeux Blizzard, il y a toujours une belle durée de vie.
Absolument.
Ça, on peut pas leur retirer ça.
Il y a un entretien chez Blizzard.
Quand ils sortent un jeu, on sait qu'il va se poser pour quelques années. Et
il y a un vrai suivi, ouais.
Voilà, donc on sait qu'on n'aura pas un Overwatch 2 l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. Donc c'est voilà, pas comparable.
Mais alors Doom dans tout ça,
parce que Doom, mon cher ami,
qui est sorti en début d'année, il aurait pu figurer parmi les meilleurs FPS de l'année.
Figure-toi que Doom a un très bon multi, un très bon solo,
et un multijoueur
un peu
moins bon,
un peu plus fade, on va dire. Et encore une fois, bah du coup Tissot, il pourra pas apprécier le jeu à mon avis, puisque
le
multijoueur n'est pas bon, voilà.
Ah bah,
donc je sais pas si tu vas apprécier, en tout cas.
Ah non, c'est sûr que non. Non, mais j'ai eu des échos aussi, j'ai pas eu l'occasion de le tester.
Il est pas dégueulasse, mais disons que quand t'es habitué à jouer à la saga Doom, enfin pas forcément finalement.
Exception les 3, oui.
Pas un bon multijoueur, mais
pas un bon jeu.
Quand tu t'attends à Doom, tu te dis voilà, t'as envie d'avoir une expérience un peu semblable à ce que t'avais dans le solo au niveau de la rapidité de mouvement, etc. Alors là, je sais pas, ça a perdu un peu de son. Rien qu'au niveau des maps, je trouve qu'elles sont pas super bien travaillées. C'est un peu brouillon. Ça tourne souvent en rond. Enfin, après, c'est mon avis vraiment là-dessus, mais j'ai pas approché au multijoueur de Doom, malheureusement.
Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, pour décider quels sont les FPS qui nous ont le plus cette année, c'est un bordel.
Et Special,
on parle pas de Special. On en parlera bientôt parce que là.
Même pas une petite minute sur Special.
Écoute, tu as beaucoup joué
En tout cas, j'ai vu beaucoup. 5
minutes.
Jeux,
ouais.
Ah bah voilà. Donc tu l'as vu seulement.
Je l'ai vu jouer devant moi.
Bah voilà. Ah bah j'ai le cousin de ma sœur qui m'a dit voilà, que machin. Ça. Non. On verra quand on l'aura entre les pattes, hein. Donc
et
pas
Shadow
de
Warrior. J'ai
pas
joué.
De. Ah bah
joué
Shadow Warrior, t'es bien aimé, oui.
Alors je peux en parler ou pas?
Ouais, vas-y un tout petit peu vite fait.
Et bah Shadow Warrior, c'est pareil. Il y a pas de multijoueur pour le coup. C'est de la coopération. Donc là, c'est encore une fois, ça vise un autre public. Si vous aimez jouer avec vos potes, jusqu'à 4 joueurs.
Et si vous avez plus de 18 ans, parce que ça,
ouais,
c'est quand même dégueulasse.
C'est assez
hein,
dégueulasse. Mais en même temps, c'est tellement what the fuck. C'est quand même. Mais vraiment, c'est comment dire? Je trouve même pas d'adjectif. C'est psychédélique.
Ouais.
Voilà, c'est psychédélique, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens.
Pied, c'est bien.
Les ennemis sont totalement fous, les dialogues sont extraordinaires. Mm. Enfin, c'est énorme en solo et en coopération aussi. Voilà.
Bon, tout ça pour dire des FPS, il y en a eu plein cette année, c'est difficile de choisir. Ouais. Et pour cette fin d'année, bah voilà, là je crois qu'on a décidé que Battlefield 1 allait être peut-être notre préférence visiblement ici chez Gameblog, même si Titanfall 2 et Call of Duty ne déméritent pas. Ainsi va donc ce podcast numéro 397 qui parlait des FPS de la fin d'année, ouais, bientôt 400, de la fin d'année 2016. Je vais évidemment remercier Tizo, Carole.
Merci.
Merci. Camille, et évidemment aussi Poufy à la sono que vous ne voyez pas,
qui
mais
campe,
qui est toujours là. Et d'ailleurs, je vais remercier la figurine.
Cooper qui en est tombé.
Qui vient de
parce
tomber.
Parce que bon, on n'a pas dit que c'était Titanfall 2,
ça,
voilà.
Ah, le
absolument,
petit,
il
n'est
pas
Jack
du tout
Cooper,
dans le sur le zone. Bref, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast qui sera entièrement dédié. Et là, si vous êtes premium, vous allez voir quelque chose. Ouh la vache, c'est lourd. Ah, bon, vous voyez, j'en chie un petit peu pour la porter, mais
avec
la...
le Call of Duty derrière,
à la PS4,
on voit des
Pro.
Choses.
Absolument. Voilà,
sont
donc
partout.
La semaine prochaine, nous vous parlerons essentiellement de la PS4 Pro
budget,
qui sort le 10 novembre prochain. Et pour les premium, je vous le dis, le podcast devrait être disponible bien avant la date habituelle, c'est-à-dire en général on vous les donne le jeudi, vendredi, là ça devrait arriver bien avant, et donc avant le 10 novembre évidemment, jour de la sortie de cette console dont on vous a parlé beaucoup déjà.
Oui,
on vous prépare des tests, des comparos, en veux-tu en voilà, il y en aura partout. Bref, la semaine prochaine vous allez découvrir des tas de choses sur la PS4 Pro, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Salut.
Ciao.